Courbons maintenant la tête pour la prière. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour cette nouvelle occasion de venir t'adorer, Seigneur. Nous sommes reconnaissants d'être vivants et d'avoir cette grande révélation de la vie éternelle qui demeure en nous. Nous sommes venus ce soir, Père, pour étudier ta parole ensemble. Ces grands mystères cachés depuis avant la fondation du monde. Et l'agneau est le seul qui puisse nous le révéler. Je prie qu'il vienne au milieu de nous ce soir et qu'il prenne de sa parole et nous la révèle afin que nous puissions savoir comment être de meilleurs serviteurs pour lui dans ce temps de la fin. Ô notre Dieu, alors que nous voyons maintenant que nous sommes au temps de la fin, aide-nous à connaître notre place, Seigneur, la fragilité de notre être et la certitude de la prochaine venue du Seigneur. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Je crois que c'est David qui disait « Je suis heureux » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est toujours un grand privilège de venir. L'étude en commun de la parole nous donne cette merveilleuse espérance. Il y a beaucoup de monde debout, j'irai aussi vite que possible. Mais je crois que vous avez apprécié la présence du Saint-Esprit comme moi dans ces dernières réunions. Et aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose que je n'ai pas eu depuis longtemps. J'étudiais cette révélation, l'ouverture de sept sceaux. Il y a quelques années, j'avais parlé de ceci, environ 20 ans, mais il me semblait y avoir quelque chose qui ne me satisfaisait pas totalement, quelque chose en particulier dans ces sceaux, parce que ces sceaux sont le livre tout entier, c'est le livre. Tout le livre est un seul livre qui est scellé. Par exemple, je vais vous montrer ce que ça veut dire. Voici un sceau, et vous le roulez ainsi, de la manière dont il était enroulé. Et au bout, il y a un petit morceau qui dépasse, c'est le premier sceau. Très bien. C'est la première partie du livre. Et le sceau suivant est enroulé de cette manière, juste à côté. Et c'est enroulé, comme ceci. Et au bout, il y a un autre qui dépasse, c'est que ça veut dire deux sceaux. Et c'est ainsi que toute la Bible a été écrite en rouleau. Ainsi donc, en brisant ces sceaux, on ouvre les mystères du livre. Avez-vous étudié comment Jérémie a écrit cela? Beaucoup parmi vous ont pris des notes hier soir, de quelle manière ces sceaux furent écrits et conservés jusqu'à la fin des 70 ans de captivité. Il revint et réclama sa possession. Et j'aimerais dire ceci, il n'est pas possible d'exprimer tout cela parce que c'est une parole éternelle, c'est un livre éternel. C'est pourquoi nous devons arriver au passage élevé en étudiant ces choses aujourd'hui. J'ai noté de nombreux passages des Écritures afin que vous puissiez les étudier. De même, les bandes vous révéleront beaucoup de choses lorsque vous les étudierez. Il y a tellement de choses, si je pouvais me tenir ici à la chaire et vous révéler de la manière dont ça m'a été révélé dans la chambre. Oh là là, ce serait merveilleux. Mais quand nous sommes ici, nous sommes pressés par le temps, ce qui fait que nous devons sauter bien des choses, faisant de notre mieux pour apporter au moins le principal aux gens. J'ai beaucoup apprécié ce chant de frère Ungren, descendu de sa gloire. S'il n'était pas descendu de sa gloire, où serions-nous ce soir? Nous sommes reconnaissants qu'il soit descendu pour nous aider. Maintenant, comme beaucoup sont debout, nous allons nous dépêcher, faire de notre mieux. Je ne dis pas que nous allons nous dépêcher à traverser tout ça, mais nous allons commencer aussi vite que possible. Prenons maintenant, nous avons eu le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième chapitre hier soir, et ce soir, Nous commencerons le sixième chapitre de l'Apocalypse. Alors que nous étudions ce chapitre, nous nous faisons référence à divers passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, parce que le livre entier est la révélation de Jésus-Christ. C'est tout ensemble la révélation du Seigneur Jésus, la révélation de Jésus-Christ. C'est Dieu qui se révèle lui-même dans le livre. Il se révèle au travers de Christ dans le livre. Et Christ est la révélation de Dieu. Il est venu pour révéler Dieu parce que lui et Dieu sont la même chose. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En d'autres termes, vous n'auriez jamais connu qui était Dieu s'il ne s'était pas révélé lui-même au travers de Christ. Alors vous pouvez le voir. Il y a des années, je pensais que Dieu était peut-être fâché contre moi, mais que Christ m'aimait. Mais j'ai fini par découvrir qu'ils sont une seule et même personne. Et Christ est le cœur même de Dieu. Et maintenant, alors que nous avons étudié ceci, les trois premiers chapitres de la Bible, de l'Apocalypse, nous avons pratiquement passé ça au peigne fin, ce sont les âges de l'Église, les sept âges de l'Église. Maintenant, il y a sept âges de l'Église, sept sceaux, sept trompettes, sept coupes, les esprits impurs comme des grenouilles, tout ça va ensemble. Comme j'aimerais avoir un grand tableau pour dessiner toutes ces choses comme je les vois. Chacune prenant sa place. Je l'ai dessiné sur une petite feuille de papier. Et jusqu'à présent, tout est parfaitement juste. Les temps et les âges, comme ils sont venus et sont passés, et tout cela s'est joint parfaitement. C'est peut-être pas entièrement juste, mais c'est au mieux de ma connaissance en tout cas. Et je sais que si je fais de mon mieux, si je fais une erreur, en essayant de faire de mon mieux, mieux de ma connaissance, certainement Dieu me pardonnera pour cette erreur si je me suis trompé. Mais maintenant, ces trois premiers livres sont les sept âges de l'Église, et alors nous découvrons au quatrième chapitre de l'Apocalypse que Jean est enlevé. Il n'est pas dit grand-chose au sujet des âges de l'Église. C'est là que je pense que les gens vont être tellement surpris. Ils appliquent les manières de l'Église jusque dans la tribulation, ces choses qui sont arrivées. Et comme j'ai dit dimanche, hier, la première chose que vous allez voir, la tribulation va arriver et vous allez vous demander pourquoi la première venue n'était pas l'enlèvement, mais il aura déjà eu lieu, il sera passé, et vous ne vous en serez pas aperçu. Il n'y a pas beaucoup de promesses pour cette Église, l'Église des nations, l'épouse. Mais je voudrais que vous compreniez bien qu'il y a une Église et une épouse. Vous devez toujours considérer que les choses vont par trois. Quatre, c'est faux. Trois. Vous avez vos trois, sept, dix, douze, 24. 40, 50. Ce sont des nombres qui ne sont pas brisés. Dieu dirige ses messages par les nombres de la Bible, dans ces nombres. Si vous trouvez quelque chose qui ne correspond pas à l'un de ces nombres, alors faites attention, ce ne sera plus juste. Vous devez revenir ici à votre point de départ. L'autre jour, frère Lee Vail, je pense qu'il est ici. Nous parlions l'autre jour au sujet des gens qui quitte la piste. C'est comme tirer à une cible. Si votre fusil est parfaitement équilibré, dirigé, pointé, il doit atteindre la cible, à moins que le canon ne bouge, ne dévie ou ne vibre, ou qu'il y ait une rafale de vent. Quelle que soit la direction que vous ayez prise, il n'y a qu'une chose à faire si vous voulez toucher le but, c'est retourner au point où vous avez perdu la piste et faire un nouveau départ. Autrement, on n'atteint pas la cible. C'est ainsi avec l'étude des Écritures, je crois. Si nous partons sur quelque chose, mais que cela ne donne rien de juste, alors nous voyons, nous avons fait une erreur quelque part, nous devons revenir en arrière. Vous ne comprendrez jamais ces choses avec votre pensée. Nous venons de voir par les Écritures qu'il n'y avait aucun homme dans le ciel ou sur la terre ou sous la terre qui ait jamais été ou qui sera jamais qui puisse le faire. Seul l'agneau peut le faire. C'est pourquoi les séminaires, les explications, quoi que ce soit, c'est juste rien du tout. Il faut que ce soit l'agneau qui le révèle, c'est tout. Ainsi, nous croyons qu'il va nous aider. Jean fut enlevé au quatrième chapitre pour voir les choses qui étaient, qui sont et qui vont arriver. Mais l'Église se termine au quatrième chapitre et Christ enlève l'Église qui est emportée dans les airs pour le rencontrer et n'apparaît plus avant le chapitre 19 où il revient Roi des rois, Seigneur des seigneurs, avec l'Église. J'espère qu'un jour nous allons y arriver, voir tout cela avant qu'il n'arrive. Ainsi donc, cela n'a pas d'importance. Le sixième chapitre, c'est l'ouverture des sceaux. Maintenant, le livre du septième sceau. Premièrement, nous voulons lire le premier sceau. Pour donner un meilleur fondement, répétons ce que nous avons dit hier soir. Nous voyons que Jean a regardé qu'il a vu le livre qui était encore dans les mains du propriétaire originel, Dieu. Vous vous souvenez comment il a été perdu? Par Adam. Il a abandonné le livre de la vie pour la connaissance de Satan et ainsi il a perdu son héritage. Il a tout perdu. Aucun moyen de rédemption. Alors Dieu, s'étant fait comme un homme, est descendu et est devenu pour nous racheter. Et maintenant nous voyons que dans les jours passés, ces choses qui étaient mystérieuses doivent nous être ouvertes dans les derniers jours. Maintenant nous avons aussi découvert aussitôt que Jean a entendu cette annonce que le parent rédempteur allait s'avancer pour faire valoir ses droits, il n'y avait aucun homme qui pouvait le faire. Personne dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, personne n'était digne même de regarder le livre. Pensez-y simplement. Pas une seule personne digne de le regarder. Et Jean a commencé à pleurer. Il savait qu'il n'y avait aucune chance de rédemption alors. Tout allait manquer. Et nous voyons bientôt que ses pleurs cessèrent parce qu'il fut annoncé par l'un des quatre animaux, ou des 24 anciens plutôt. L'un des anciens a dit, « Ne pleure pas, Jean, parce que le lion de la tribu de Judas a prévalu. » Autrement dit, il a conquis. Il a eu la victoire. Et en se retournant, Jean a vu un agneau qui s'avançait. Il était ensanglanté, meurtri, blessé. Il avait été immolé. C'était un agneau qui avait été immolé. Bien sûr, il était encore plein de sang. C'est comme si vous tuez un agneau et qu'il est immolé là, sur la croix. Une lance sur le côté, des clous dans les mains et les pieds. Le front déchiré par des épines, il était dans un état effroyable. Et cet agneau est sorti et il est allé vers celui qui était assis sur le trône, qui tenait le titre complet de la rédemption. Et l'agneau est allé prendre le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Il le prit et il ouvrit les sceaux et il ouvrit le livre. Et quand c'est arrivé, nous avons compris que ça devait être quelque chose de formidable qui est arrivé, car les anciens, les 24 anciens, les animaux et tout dans le ciel a commencé à crier « Digne !» Et alors sont venus les anges qui versèrent les coupes remplies des prières des saints. Les saints sous l'autel ont crié « Tu es digne, ô agneau, car tu nous as rachetés. Et maintenant, tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs, et nous allons régner sur la terre. » Oh là là. C'est ce qui est arrivé lorsqu'il a ouvert le livre. Vous voyez, le livre, en fait, a été planifié, il a été établi avant la fondation du monde. Ce livre, la Bible, fut réellement écrit avant la fondation du monde. Et Christ, étant l'agneau, a été immolé avant la fondation du monde. et les membres de son épouse, leurs noms ont été mis dans le livre de vie avant la fondation du monde, mais ce livre a été scellé. Et maintenant, il est en train d'être révélé. Ceux dont les noms sont là. Oh, comme c'est glorieux. Quand Jean a vu cela, il a dit que tout ce qui était dans le ciel, sous la terre, tout, l'ont entendu dire Amen, bénédiction et honneur. Oh, il avait simplement un temps formidable parce que l'agneau était digne. Et maintenant, l'agneau se tient ici ce soir, alors que nous entrons dans ce sixième chapitre, il a le livre dans la main et il commence à le révéler.
Oh,
absolument, aujourd'hui, j'espère que les gens sont spirituels. J'aurais fait une erreur horrible si vers midi aujourd'hui, le Saint-Esprit n'était pas venu dans la chambre pour me corriger sur un point que j'étais en train d'écrire, pour le dire. J'étais en train de tirer d'un ancien contexte, je n'avais rien, je ne savais pas ce qu'est le deuxième sceau, rien, mais j'avais un ancien contexte dont j'avais parlé il y a quelques années, j'avais écrit, j'avais mis ces notes d'après le livre du Dr. Smith et d'autres grands docteurs, j'avais rassemblé tout cela et j'étais sur le point de dire, je vais étudier à partir de cela. Et là, vers midi, le Saint-Esprit s'est glissé dans la pièce et m'a ouvert tout. Et voilà, le premier sceau était ouvert. Ce premier sceau. Je suis aussi positif, comme je suis ici ce soir, que ceci est la vérité de l'Évangile. Je le sais simplement. Parce que si une révélation est contraire à la parole, alors ce n'est pas une révélation. Vous savez qu'il y a des choses qui peuvent paraître absolument vraies, et cependant elles ne sont pas vraies. Elles ont l'air, mais elles ne le sont pas. Maintenant, nous voyons que l'agneau est avec le livre maintenant. Dans le sixième chapitre, nous lisons, et je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis l'un des quatre animaux comme une voix de tonnerre, disant, viens et vois. Et je vis, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis dessus avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur et pour conquérir. C'est le premier sceau. Nous allons essayer d'expliquer ce soir par la grâce de Dieu. Nous le ferons de notre mieux, et je réalise qu'un homme qui essaye d'expliquer cela marche sur un terrain dangereux s'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi, si cela vient vers moi par révélation, je vous le dirai. Si ça vient de ma propre pensée, je le préciserai avant d'en parler. Mais je suis aussi positif que je me tiens ici ce soir, que c'est venu fraîchement pour moi aujourd'hui du Tout-Puissant. Je ne suis pas enclin à dire des choses comme ça quand ça se rapporte à cette partie des Écritures. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas dire des choses qui doivent se trouver là avant qu'elles n'arrivent. Vous ne pouvez pas les dire avant que quelque chose ne la place là, voyez-vous, que vous lisiez, que vous écoutiez quelque chose. Maintenant, le livre enroulé des sept sceaux est maintenant libéré par l'agneau et nous approchons de cet endroit ce soir. Alors que les sceaux sont brisés et libérés, le mystère du livre sont révélés. Maintenant, vous voyez que ceci est un livre scellé. Nous croyons cela, n'est-ce pas? Nous croyons que c'est un livre scellé. Nous ne savions pas auparavant, mais c'est ainsi. Il est scellé avec sept sceaux. Et c'est sur le dos du livre. Le livre est scellé de sept sceaux. S'il s'agissait d'un livre comme ceci, comme si nous fermions par sept rubans. Mais ce n'est pas ce genre de livre. C'est un rouleau. Et lorsque les rouleaux sont déroulés, ça fait un, à l'intérieur de ce rouleau, il y a un numéro 2. Et là, le contenu est écrit, mais c'est un mystère. Mais cependant, nous avons sondé cela, mais souvenez-vous, le livre est scellé et le livre est un livre de mystère, de la révélation. C'est la révélation de Jésus-Christ. Voyez? Un livre de révélation. Et maintenant, vous savez que dans tous les âges, les hommes ont sondé et ont essayé d'entrer là-dedans. Nous l'avons tous fait. Et cependant, un jour, je me souviens, M. Bohannon, il doit être présent, ou un membre de sa famille. Je ne veux pas dire une insulte, mais c'est un ami très cher. Il était superintendant là, de service public. Après avoir été sauvé, je l'invitais à lire Apocalypse. C'était un homme bon, M. Bohannon. Il était un membre de l'Église. Je ne sais pas où il appartenait, mais il m'a dit, je pense que Jean a dû manger des piments rouges là et qu'il est allé se coucher avec l'estomac bien rempli. Ça aurait pu me coûter mon travail, mais je lui ai dit, est-ce qu'on n'est pas honte de dire cela? J'étais juste un garçon de 21 ans, mais j'ai dit, est-ce que vous n'avez pas honte de parler ainsi de la parole de Dieu? J'avais peut-être 21, 22 ans. Le travail était rare, nous étions en pleine crise, mais j'étais effrayé d'entendre injurier la parole de Dieu. Elle est la vérité, toute la vérité. Ce n'était pas un rêve ou un cauchemar. Ce n'est pas parce que Jean avait mangé, mais il était sur l'île de Patmos, parce qu'il essayait de mettre la parole de Dieu sous forme de livre, qu'il avait été exilé là par le gouvernement de Rome. Il était sur l'île le jour du Seigneur, et il entendit derrière lui une eau de nombreuses eaux, et il se retourna, il vit sept chandeliers d'or. Au milieu se tenait le Fils de Dieu. Maintenant, le livre est une révélation. Une révélation, c'est quelque chose qui se fait connaître venant de quelque chose qui a été révélé, maintenant remarqué, afin que vous ne l'oubliez pas. Il est fermé jusqu'au temps de la fin, les derniers temps. Tout le mystère est fermé jusqu'au temps de la fin. Nous voyons cela ici dans les Écritures. Maintenant, les mystères du livre sont révélés quand les sceaux sont brisés. Et quand les sceaux sont complètement brisés, le temps de la rédemption est terminé parce que l'agneau quitte le lieu d'intercession pour aller prendre possession de ses droits. Il est un médiateur entre-temps, mais quand la réelle révélation se passe sur les sceaux et qu'ils commencent à être brisés, l'agneau s'avance, sort du sanctuaire. C'est selon la parole, nous l'avons lu hier soir. Il est sorti de là et il a pris le livre. Il n'est plus un médiateur parce qu'on l'a appelé un lion. Et c'est un roi. Et maintenant, il n'est plus un médiateur. Bien que les acteurs de ces sceaux commencent à entrer en scène au premier âge de l'Église, maintenant, souvenez-vous, afin de saisir vraiment bien l'arrière-plan, aussi complètement que possible, les acteurs, je vais le dire ainsi, parce qu'un acteur, c'est un homme qui change de masque. Voyez? Et dans cette pièce ce soir, nous allons voir que c'est Satan qui change de masque. Et tous les acteurs, Christ a joué son rôle quand il est passé de l'état d'esprit à celui d'homme. Il a revêtu alors son vêtement d'acteur, une chair humaine. Il est descendu sous la forme d'un homme afin d'être apparent rédempteur. Maintenant, voyez, c'est simplement sous la forme d'un jeu d'acteur. C'est pour cette raison que tout est en parabole et que les personnes sont présentées ici comme des êtres vivants, des animaux. C'est une représentation comme une pièce de théâtre. Et ces acteurs commencent au premier âge de l'Église. C'était Christ se révélant au travers des sept âges de l'Église. Est-ce que vous comprenez?
Oui.
Christ se révélant au travers des sept âges de l'Église. Et alors, au long de ces âges de l'Église, il y a une grande confusion qui arrive. Puis, à la fin de l'âge de l'Église, le message du septième ange doit aller rassembler ces mystères perdus et les donner à l'Église. Nous remarquons cela. Mais ce n'était pas encore révélé dans son état réel. Au temps de la Bible, les mystères étaient là et ils ont vu ces choses arriver de la manière dont Jean l'a vu ici. Alors il a dit, il y a un cavalier au cheval blanc. Mais ce qu'était le mystère, il y a un mystère qui va avec ce cavalier. Ce que c'était, il ne savait pas. Mais ça doit être révélé. Et ça doit être révélé après que l'agneau quitte le trône du Père de son intercession en tant que parent rédempteur. Maintenant, je vais dire quelque chose ici. Si quelqu'un reçoit ces bandes, tout homme peut dire ce qu'il veut, il a le droit, ses convictions. Mais vous savez, si un ministre ne veut pas cela dans son assemblée, alors il faut lui dire de ne pas prendre ses bandes. Mais ceci, en fait, au milieu des gens auxquels j'ai été envoyé pour leur parler, c'est pourquoi je dois leur révéler ce qui est la vérité. L'agneau, au temps de l'intercession, ici, il savait qu'il y avait des noms là-dedans qui ont été placés là depuis la fondation du monde et ces noms n'ont jamais été manifestés sur la terre jusqu'à présent et il a fallu qu'il se trouve là comme intercesseur. Avez-vous saisi? Parfaitement, la prédestination. Très bien. Il devait rester là parce qu'il est venu pour mourir pour ceux que Dieu avait ordonné à la vie éternelle. Voyez, par sa préscience, il les avait vus, non pas sa propre volonté. Sa volonté, c'était que personne ne périsse, mais par sa préscience, il savait qui oui et qui non. C'est pourquoi, aussi longtemps qu'il reste un nom n'avait pas encore été proclamé sur la terre, Christ devait rester là comme intercesseur pour prendre soin de ce nom. Mais dès que ce nom final aurait été plongé dans ce chlorox, cette eau de Javel, alors les jours de son intercession sont terminés. Que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est saint se sanctifie encore, voyez. Alors il quitte le sanctuaire, et alors ça devient un trône de jugement. Malheur à ceux qui seront alors en dehors de Christ à ce moment-là. Maintenant, remarquez. Mais ça doit être révélé quand l'agneau quitte sa place d'intercession auprès du Père, Apocalypse 5, il prend le livre des sceaux, ou plutôt le livre scellé par les sceaux, il les brise et les montre à la fin de l'âge maintenant, après que l'intercession soit terminée. Les âges de l'Église sont terminés. Il est venu dans le premier âge, l'âge d'Éphèse. Il a révélé, envoyé le messager. Remarquez ce qui se passe alors que nous avançons. Voici le plan. La première chose qui arrive, une annonce est faite premièrement dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Et quand un mystère se dévoile, une trompette sonne. Elle déclare une guerre. Une plaie tombe et un âge d'Église s'ouvre. Voyez, pourquoi cette guerre? L'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu. Il n'est pas encore entièrement révélé, mais ce qu'il fait, il saisit ce mystère de Dieu et alors il va devant les gens après que le mystère lui a été donné. Il va vers les gens et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il commence à proclamer ce message. Et qu'est-ce que ça commence? Une guerre. Une guerre spirituelle. Et alors Dieu prend son messager avec les élus de cet âge, il les fait reposer à l'écart, et puis alors il fait tomber une plaie sur ceux qui l'ont rejeté. Un jugement temporaire. Et alors, Quand c'est terminé, alors ils continuent, les dénominations, ils partent de l'œuvre d'homme comme Wesley et les autres. Et alors, ça tombe dans la confusion à nouveau, et puis un autre mystère sort. Alors qu'est-ce qui se passe? Un autre messager arrive sur la terre pour un nouvel âge de l'Église. Et quand il arrive, la trompette sonne, déclare la guerre. Oui. Et alors qu'est-ce qui se passe? Finalement, le messager est enlevé, et quand il est envoyé dans le repos, alors une plaie tombe, les détruit, la mort spirituelle frappe l'Église, et ce groupe est mort, puis cela recommence. Oh, c'est un grand plan qui se réalise jusqu'à l'arrivée du dernier ange. Maintenant, il n'a pas un mystère en particulier, mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges, toutes les vérités qui n'étaient pas encore véritablement révélées alors que la révélation vient. Puis il révèle ces choses en son jour. Si vous voulez le lire, le voilà. Apocalypse 10, de 1 à 4, vous allez le saisir. Très bien. Il prend le livre des sceaux, il les brise, et il montre au septième ange, car ceci seul est le mystère de Dieu, c'est le ministère du septième ange. Nous sommes maintenant parvenus au bout des âges de l'Église, l'histoire elle-même le prouve. C'est le message de l'ange de la septième Église, très bien. Il révèle tous les mystères qui ont été dans le passé, toutes les choses dans le passé. Apocalypse 10, de 1 à 7. C'est ce qui doit arriver. Maintenant, souvenez-vous, au jour du septième ange, lorsqu'il sonne, fait retentir la trompette de l'Évangile, ceci doit terminer tous les mystères de Dieu. Tout comme c'est venu dans le premier âge de l'Église, doctrine, et puis d'abord une opinion, puis ça devient un statut, puis ça devient une église, jusqu'aux âges sombres, et hors des âges sombres, est sortie la première réforme. Luther, il a apporté avec lui toutes sortes de choses mystérieuses qui sont arrivées pendant l'âge de l'église, là-bas, mais il n'a jamais terminé ces choses. Et puis est venu Wesley avec la sanctification, il a apporté quelque chose de plus, mais lui non plus n'a pas achevé la chose. Ils ont laissé partout des choses comme l'aspersion d'eau au lieu de baptême. Luther disait Père, Fils, Saint-Esprit au lieu du Seigneur Jésus-Christ et toutes ces diverses choses. Et puis l'âge de la Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit. Et là aussi, ils ont manqué le but. Maintenant, il ne peut pas y avoir d'autres âges qui suivent. C'est l'âge de l'Odyssée. Mais alors, nous découvrons, en étudiant les Écritures, que le messager de l'âge arrive chaque fois à la fin de l'âge. Paul est venu à la fin de l'âge. Voyons qu'Irénée est arrivé à la fin de l'âge. Martin, à la fin de l'âge. Luther, à la fin de l'âge catholique. Wesley, à la fin de l'âge luthérien. Et la Pentecôte, à la fin de l'âge de la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et à la fin de l'âge de la Pentecôte, nous sommes censés recevoir, selon la parole de Dieu, que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer, nous devons voir, recevoir un messager qui va prendre tous ces points en suspens là-bas et révéler tout le secret de Dieu pour l'enlèvement de l'Église. Et ensuite viennent sept mystérieux tonnerres qui ne sont même pas du tout écrits. C'est juste. Et je crois que par ces sept tonnerres seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Parce qu'avec ce que nous avons maintenant, nous ne serions pas capables de le faire. Quelque chose doit sortir. Nous ne pouvons pas avoir assez de foi pour la guérison divine à peine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un moment et être enlevés de cette terre. Et nous allons découvrir après un temps le Seigneur voulant là où c'est écrit. Alors, tous les jugements de ces malfaiteurs dans les âges de l'Église, ces sceaux sont brisés jusqu'au jour où maintenant le dernier sceau sera brisé. Et maintenant, tandis qu'ils ont observé ces sceaux en présumant simplement ce qu'ils faisaient, maintenant, à la fin des âges de l'Église, tous ces malfaiteurs prennent place et s'acheminent vers la tribulation. Tous ces malfaiteurs des sept sceaux qui ont agi mystérieusement dans l'Église, et nous allons découvrir dans une minute qu'ils l'ont même fait au nom d'une Église. Ils s'appellent eux-mêmes l'Église. Vous verrez si ce n'est pas vrai. Ce n'est pas étonnant que je me sois pareillement opposé aux dénominations sans le savoir. Ça se termine maintenant, ça a commencé ici, sous une forme bénigne au début, et puis c'est allé de plus en plus mal, et les gens entrent tout droit là-dedans en disant, oh oui, c'est vraiment bien, mais au dernier jour, ces choses seront connues. Et finalement, ça va tellement mal, au point où ils vont entrer directement dans la période de la tribulation. Et comment un homme peut-il dire que l'épouse de Christ doit passer par la tribulation? Je ne peux pas comprendre ça. Elle est soustraite à la tribulation. Si l'Église a été jugée, et s'ils se sont jugés eux-mêmes, s'ils ont accepté le sang, comment Dieu peut-il juger un homme qui est parfaitement et totalement sans péché? Vous direz, une telle personne n'existe pas. Chaque croyant né de nouveau, chaque vrai croyant est parfaitement et absolument sans péché devant Dieu. Il ne se confie pas dans ses propres œuvres. C'est dans le sang de Jésus, par sa confession, il tombe là-dedans. La Bible le dit. Voyez? Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché, parce qu'il ne peut pas pécher. Comment pouvez-vous faire un homme un pécheur lorsque le décolorant du sang de Jésus-Christ est entre lui et Dieu? Cela disperse le péché au point qu'il n'en reste plus rien. Comment le sang pur de Christ pourrait-il laisser passer un seul péché? Il ne le peut pas. Jésus a dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père du ciel est parfait. » Comment pourrions-nous-mêmes commencer à avoir la pensée d'être parfait? Mais Jésus l'a exigé. Et si Jésus l'a exigé, alors il doit faire un chemin pour cela. Et il l'a fait, c'est son propre sang. Maintenant, il révèle tous les mystères dans le passé. Maintenant, la pensée, c'est qu'ici, au temps de la fin, les mystères qui ont commencé là-bas il y a longtemps et sont arrivés dans les âges de l'Église doivent être révélés ici au brisement des sceaux dans les derniers jours. À ce moment-là, après le temps de l'intercession, c'est le point de se terminer à ce moment-là. Alors, le jugement attend ceux qui sont restés en arrière, et c'est là qu'ils entreront. C'est après que l'épouse a été retirée de la scène. Lisons simplement les Écritures. Vous aimez tous noter des références, n'est-ce pas? Prenons Thessaloniciens. C'est une telle image là-bas, j'aime cela. Voyons, oui, 2 Thessaloniciens, deuxième chapitre de 2 Thessaloniciens, le septième verset. Voyons, 2 Thessaloniciens, 2, 7. Je pense que c'est juste. Maintenant, j'ai écrit ça en tremblant. Le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit ôté du chemin. Qui? Celui qui le retient. Voyez? Un mystère. Le mystère de l'iniquité, déjà dans le premier âge de l'Église. Paul qui a écrit, il a dit que le mystère de l'iniquité, qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est quelque chose que vous savez que vous ne devriez pas le faire, que vous le faites quand même. Et Paul a dit, il y a aujourd'hui sur la terre des ouvriers d'iniquité. Lisons ce passage, en partant du verset 3. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée premièrement et que l'homme de péché ne soit révélé le fils de la perdition. C'est juste. Qui s'oppose et s'exalte au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré afin que lui-même s'assoit dans le temple de Dieu, se montrant lui-même comme étant Dieu, remettant les péchés. Mais souvenez-vous, pas que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses, j'aurais aimé être assis à l'écoute de quelques-uns de ces enseignements. Maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son temps. Non pas alors, oui, non pas alors, mais en son temps.
Oui,
au brisement de ce sceau, nous savons exactement ce que c'était. Qui est cet homme d'iniquité? Qui est cet homme de péché? Ce gars-là qui agit l'iniquité et qui doit être révélé en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Des séducteurs, voyez-vous, qui séduisent les gens d'une manière ou l'autre. Seulement celui, Dieu, qui retient maintenant, le fera jusqu'à ce qu'il, Christ, l'Église, l'épouse, soit loin du chemin, et alors le méchant sera révélé au brisement des sceaux à la fin des temps. Paul a dit, non pas de mon temps, mais au temps où il sera révélé, oui, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche. Nous allons y arriver dans un instant. L'esprit de sa bouche et qu'il détruira par l'apparition de sa venue. Lui dont la venue est selon l'opération de Satan, lui, c'est un homme, dont l'opération est selon les agissements de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, de mensonges, et en toute séduction d'injustice, de séduisant les gens par l'injustice, pour ceux qui périssent, non point cette épouse, mais ceux qui recherchent ces choses, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, et Christ est la vérité, et Christ est la parole, mais ils préfèrent avoir un credo, afin qu'ils soient sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur a envoyé une puissante illusion afin qu'ils croient un mensonge. Ça devrait être traduit là, j'ai regardé dans le dictionnaire, ça devrait être le mensonge, non pas un mensonge, mais le mensonge, afin qu'ils soient damnés, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice. Quelle déclaration! Oh là là! Après que l'épouse soit enlevée, alors cet homme de péché va se révéler. Elle, la vraie épouse de Christ, a été élue hors de chaque âge de l'Église. Maintenant ici, je vous ai déclaré que l'épouse pourrait aller à la maison sans que vous vous en aperceviez. Quelqu'un a dit, « Mais frère Branham, ce serait vraiment un petit groupe. » Jésus a dit, « Comme il en était au jour de Noé. » Maintenant, parlez-lui-en. Où un petit nombre de 8 furent sauvés au travers des eaux, de même il en sera à la venue du Fils de l'homme. S'il y en avait 800 qui s'en iraient dans l'élèvement ce soir, vous n'en entendriez pas un mot à ce sujet demain ni le jour suivant. Ils auraient disparu et vous n'en sauriez rien. Ce serait comme si de rien n'était. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je n'essaie pas de vous effrayer, de vous inquiéter, mais je veux que vous soyez sur la pointe des pieds, que vous soyez prêts, veillant à chaque instant. Abandonnez votre non-sens. Mettez-vous à l'œuvre avec Dieu, parce qu'il est plus tard que vous ne pensez. Maintenant, souvenez-vous, la véritable épouse. Maintenant, il y a une fausse épouse. Nous voyons ça dans Apocalypse 18, 7. Elle dit, je suis assis, je n'ai besoin de rien. Vous voyez, il était assis sur une bête de couleur écarlate. Mais la véritable épouse sera faite de millions de gens. Ce sera l'élu prise dans chaque âge de l'Église. Chaque fois qu'un message est sorti et que le peuple, les gens l'ont cru et qu'ils l'ont accepté dans toute sa lumière, ils ont été scellés et mis à part pour le jour de la rédemption. Et Jésus n'enseignait-il pas la même chose quand il a dit « Le cri retentit à la septième veille, voyez-vous, le dernier âge de l'Église. » Et il a, s'est écrit « Voici l'époux, viens, sortez à sa rencontre. » Alors les vierges folles se sont levées, se sont frottées les yeux, elles ont dit « Il me semble que je devrais acheter un peu de cette huile. » Et la véritable épouse dit « J'en ai juste assez pour moi-même. J'en ai juste assez pour rentrer moi-même. Je ne peux rien te donner si tu veux. Eh bien, va prier pour en avoir. » Mais pendant qu'elle est partie, l'époux est venu et l'épouse entre. Alors le reste, les autres qui étaient aussi parfaitement vertueuses, l'Église, fut laissé à l'extérieur. Et il a dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents, voyez, maintenant. Ça, ce sont les élus. Et quand le son retentit, l'appel, voici l'époux vient, alors tous ceux qui s'étaient endormis dans les âges de l'Église se sont réveillés, chacun d'eux. Comme, voyez, ce n'est pas Dieu, comme nous le pensons, qui ira récolter quelques milliers de gens dans cet âge-ci et les enlèvera. Il prendra les élus même de chaque âge. Et c'est la raison pour laquelle Christ doit rester sur le trône de médiation en tant qu'intercesseur jusqu'à ce que le dernier entre au dernier âge. Et ces révélations de ce que cela a été sont données aux gens et ils voient ce qui est arrivé. Saisissez maintenant? Très bien. Remarquez que le reste des morts, les membres d'Église, ne sont pas revenus à la vie jusqu'à ce que 1000 ans soient passés. Les membres d'Église, les chrétiens, l'Église, ne sont pas revenus à la vie avant la fin des 1000 ans. Et alors ils s'avancent pour se tenir devant l'épouse. C'est vrai. Ils se tiennent devant le roi et la reine. Gloire! Aujourd'hui, il y a une église qui se donne le nom de reine du ciel. La reine du ciel, c'est l'épouse sélectionnée par Christ. Et elle vient avec lui. Daniel l'a vu quand il a dit, 1000 milliers le servaient. Observez les Écritures là dans Daniel. Le jugement fut établi et les livres furent ouverts. Maintenant, souvenez-vous, lorsqu'il est venu, il vint avec son épouse. La femme sert son mari et 1000 milliers le servaient. Le jugement fut établi, les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui était le livre de vie. Il ne s'agit pas du tout de l'épouse. Elle a été enlevée et elle revient ici. Elle est là pour le jugement des générations qui ont refusé le message de l'Évangile. Jésus ne disait-il pas que la reine du Midi se lèverait au jour du jugement avec cette génération et qu'elle la condamnerait parce qu'elle était venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon? Et il y a ici plus grand que Salomon. Là se tient le jugement. La reine de Séba, la reine du Sud, se tiendra là au jour du jugement avec son propre témoignage. Les Juifs ne montèrent même pas avec cette génération qui était juive. Ils étaient aveugles, ils l'ont manqué, et pourtant ils le recherchaient. Mais il est venu de manière si simple qu'ils sont passés à côté. Et là, cette grande reine, elle s'est humiliée, elle est venue et a accepté le message. Et elle se lèvera au jour du jugement pour condamner cette génération. Vous remarquez les trois classes chaque fois? Il y avait le livre, les morts furent jugés, puis un autre livre, le livre de vie, ceux dont le nom était écrit dans le livre de vie. Vous direz, si mon nom est dans le livre de vie, tout va bien, n'est-ce pas? Pas du tout. Regardez, Judas Iscariote avait son nom dans le livre de vie. Maintenant, dites que c'est faux. Jésus, dans Matthieu 10, leur a donné la puissance de chasser les démons, les envoyer pour guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Ils sont partis. Ils sont revenus. Judas était avec eux. Et ils ont chassé les démons. Ils ont fait toutes sortes de miracles Puis ils sont revenus en disant, même les démons nous sont soumis. Et Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que votre nom, vos noms sont écrits dans les cieux. Et Judas était avec eux. Mais qu'est-il arrivé? Quand vint pour le groupe élu le moment de se rassembler lors de la Pentecôte et recevoir réellement le Saint-Esprit, alors Judas a montré ses couleurs. Il sera là au jour du jugement. Ainsi donc, les livres furent ouverts et le livre de vie fut ouvert et chaque homme fut jugé. Maintenant, à ce moment-là, l'époux se tient avec Christ pour juger le monde. Paul ne dit-il pas en parlant à l'épouse, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Vous y voilà. Les saints jugeront la terre et prendront le pouvoir, c'est vrai. Vous dites, comment cela peut-il se passer avec un si petit groupe? Je ne sais pas comment cela se fera, mais il a dit que cela se fera. Et pour moi, ça règle la question en ce qui me concerne. Maintenant, remarquez, le reste des morts, les membres d'Église, morts, ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans, mais à la fin des 1000 ans, ils furent rassemblés, il y eut une autre résurrection, qui est la seconde résurrection, et Christ et l'épouse, Christ et la reine, pas l'Église, Christ et l'épouse se tenaient là, et ils étaient séparés des autres comme les brebis des chèvres. C'est juste. Voilà les membres d'Église qui arrivent. Et s'ils ont entendu la vérité et l'ont rejetée, alors, que leur dira-t-on lorsque tout sera exposé sur le grand écran et que même vos propres pensées là y seront? Comment allez-vous échapper quand ce sera exposé là sur le grand écran des cieux et que sur la grande télévision de Dieu seront exposées vos propres pensées rebelles, vos propres pensées qui parleront contre vous à ce moment-là? Si donc vous dites une chose et que vous pensiez une autre, vous feriez mieux d'arrêter de faire cela. Que vos pensées soient sur Dieu, gardez-les pures, restez exactement dans cette position et dire toujours la même chose, tout le temps. Ne dites pas, eh bien, je dirai que j'y crois, mais je vérifierai tout de même. Croyez-le. Amen. La raison pour laquelle ils meurent, ils passent par une purification, les épreuves de la tribulation, parce qu'ils ne sont pas en réalité sous le sang. Ils disent qu'ils y sont, mais ils n'y sont pas. Comment pourraient-ils passer par une épreuve de purification si le sang purificateur de Jésus-Christ a ôté tout symptôme de péché? Et vous êtes déjà mort, et votre vie est cachée en Christ par Dieu et scellée là par le Saint-Esprit. Alors pour quelle raison serez-vous jugé? Où allez-vous obtenir votre purification? De quoi devez-vous être purifié quand vous êtes parfaitement en Christ sans péché? Quelle est la raison du jugement? Mais c'est ce groupe de vierges folles que les gens n'arrivent pas à distinguer. Et c'est pendant des années comme cela. Mais voici l'heure de la révélation, où les choses sont révélées. Et c'est le dénouement final, juste la venue de l'époux, les dernières choses qui sont en train d'arriver. Quand, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Mais je veux vivre ce soir comme si ça devait arriver ce soir, je veux être prêt. Il pourrait venir ce soir, comme il peut ne pas venir avant 20 ans, je ne sais pas quand il viendra, mais que ma vie pourrait être terminée ce soir, et tout ce que j'aurais fait ici sera terminé à cette heure-là. Je devrais le rencontrer au jugement pour la façon dont j'ai vécu ici-bas. L'arbre tombe du côté où il penche. Souvenez-vous, quand elles sont allées acheter de l'huile, oh, direz-vous, attendez une minute, frère Branham, à ce sujet, je n'en sais rien. Elles sont allées acheter de l'huile. Quand elles sont revenues, l'épouse était partie. Et la porte était fermée, elles ont frappé en disant, laissez-nous entrer. Mais elles furent laissées dehors dans les ténèbres. Si vous voulez un type de cela, regardez. Au temps de Noé, a dit Jésus. Il a fait référence à cela. Du temps de Noé, ils sont entrés dans l'arche et ils furent transportés au-dessus du jugement. Mais ce n'était pas un type de l'épouse de Christ. Enoch a été le type de l'épouse. Noé est passé au-dessus de la tribulation, il a souffert, il s'est enivré et il est mort. Mais Enoch a marché devant Dieu pendant 500 ans et il a eu un témoignage d'avoir plu à Dieu avec cette foi pour l'enlèvement. Et il a commencé simplement à marcher, il a passé à travers les suites et rentré à la maison sans avoir dû goûter à la mort. Il ne passa pas du tout par la mort. C'est un type de cette parole, nous les vivants, qui sommes restés pour l'enlèvement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ils se sont endormis à cause des limites de la vie humaine, de son état. Ils sont morts en ce temps-là, mais ils ne sont pas morts. Ils dorment. Amen. Ils sont endormis. Ils ne sont pas morts. Et la seule chose dont ils aient besoin, c'est que l'époux les réveille. Et nous qui sommes vivants et qui restons, nous ne les empêcherons pas, ceux qui sont déjà endormis. Car la trompette de Dieu va sonner et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes vivants et qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux et nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Mais le reste des morts ne reviendra pas à la vie avant 1000 ans. Voilà. Ils traverseront la période de tribulation. Que se passera-t-il? C'est comme Enoch, oui. Vous savez, Noé a regardé à Enoch. Lorsqu'Enoch a disparu, Noé savait que le jugement était proche. Il se mit à proximité de l'arche. Mais Noé n'a pas été enlevé. Il fut élevé juste un petit peu. Il est passé au-dessus de la tribulation. Il fut transporté à travers la période de tribulation pour mourir de mort naturelle. Mais Noé fut porté. Mais Enoch fut enlevé sans passer par la mort. C'est un type de l'Église qui est enlevé avec ceux qui sont endormis et qui ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais le reste de l'Église est transporté à travers la tribulation. Pour ma part, je ne peux pas comprendre les choses autrement. Enoch fut enlevé sans passer par la mort. Maintenant, commençons à étudier un petit peu. Si nous attardons là-dessus, nous n'arriverons jamais à ces sauts. Maintenant, remarquez. Peut-être demain soir, on va avoir une des trompettes, parce que la trompette sonne en même temps que l'ouverture des sceaux. C'est exactement pareil à ce qui se passe lors de l'ouverture des âges de l'Église. Maintenant, une trompette marque toujours une guerre. Autrement dit, une agitation politique. Et c'est ce que fait la trompette. Une agitation politique, et cela provoque la guerre. Quand il y a un tel chaos en politique et que tout est dans une telle confusion, comme c'est le cas maintenant, faites attention. La guerre est proche. Mais voyez-vous que le royaume appartient toujours à Satan. Il est toujours dans sa main. Il est bien racheté par Christ, mais le Sauveur occupe toujours la position de parent rédempteur, retirant ses sujets jusqu'à ce que le dernier nom soit écrit dans le livre, a été reçu, scellé et mis de côté. Comprenez-vous? Alors, il se lève de son trône, le trône de son Père. Il s'avance, prend le livre de la main de Dieu qui est sur le trône et fait valoir ses droits. La première chose qu'il fait est de réclamer son épouse. Amen. Ensuite, que prend-il? Il prend son adversaire, Satan, il le lie et le jette dans le feu avec toute sa suite. Maintenant, souvenez-vous, ce n'est pas la Russie. Non. L'Antichrist est un individu rusé. Voyez combien il est rusé, il est astucieux. Bien sûr, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse le surpasser. Remarquez, les trompettes signifient agitation politique, la guerre. Jésus parlait dans Matthieu 24, 11. Il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Voyez, c'est pareil du commencement jusqu'à la fin. Des guerres, des bruits de guerre, des guerres et des bruits de guerre, continuellement jusqu'à la fin. C'est une trompette qui résonne. Quand nous étudierons cette trompette, nous retournerons en arrière pour considérer chacune de ces guerres et nous vous montrerons qu'elles suivent ces églises, des guerres et des bruits de guerre, qu'elles suivent ces sceaux. Si la trompette indique un trouble politique, les sceaux traite de troubles religieux, voyez-vous. Un sceau est ouvert, un message est donné. Et alors, l'Église est chaque fois tellement placée dans ses manières politiques, tous ses dignitaires, tout ce qui s'ensuit, Et lorsque le vrai message est donné, d'en haut, et que ce messager s'avance, il réduit ça en pièces. C'est vrai. C'est un trouble religieux lorsqu'un sceau est ouvert. C'est ce qui est arrivé. Oui. Ils sont tous à l'aise en Sion. L'Église est installée. Et il dit, nous avons fait tout ce qu'il faut. C'est ainsi que fait l'Église d'Angleterre. Ils étaient bien installés. L'Église catholique était bien établie. Lorsque Luther eut le trouble religieux, et puis Zwingli passa à différentes étapes jusqu'à Calvin, et au bout de quelques temps, l'Église anglicane s'est installée, s'est mise à l'aise, et puis est venu Wesley, et il eut des troubles religieux. Voyez, ça dénote toujours des troubles religieux. Maintenant, le sceau, lisons un petit peu ici. Je parle et... Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit l'un des sceaux, qu'est-ce qui est arrivé? Et j'entendis comme si c'était un bruit de tonnerre. Oh, combien j'aimerais rester là quelques minutes. J'espère maintenant que tous les gens qui connaissent ces choses et qui attendent la consolation du Seigneur vont étudier cela maintenant de très près. Et tous ceux qui écouteront les bandes, ils réfléchiront. La première chose qui arrive, lorsque cet agneau brise le premier sceau, un tonnerre gronde. Ça a une signification, cela a un sens. Rien n'arrive sans que cela ait un sens. Un tonnerre a grondé. Je me demande ce qu'était ce tonnerre. Prenons Jean, Saint Jean 12. 12e chapitre. Étudions cela une minute. Saint Jean, chapitre 12. Et commençons avec le verset 23 de Saint Jean 12. Alors, écoutez bien attentivement et vous ne devrez plus vous poser de questions. Et Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Nous sommes à la fin d'un âge. Son ministère est terminé. L'heure est arrivée où le Fils de l'homme doit être glorifié. Qu'en est-il de l'heure qui vient où son épouse doit être enlevée? Ou de l'heure qui vient où il n'y aura plus de temps? L'ange est sur le point de mettre un pied sur la terre et l'autre sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de lui pour dire « le temps est écoulé ». Et lorsque ceci arrive, il lève la main et il jure qu'il n'y aurait plus de temps. Comme c'est parfait. C'est une déclaration faite sous serment à l'Église. L'heure est arrivée où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, il la perdra. Celui qui déteste sa vie, dans ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si un homme me sert, lui, mon Père l'honorera. Et maintenant, mon âme est troublée. Comment le voici arrivant au terme de la route, il est troublé. Qu'est-ce que ça vous fait penser quand ça arrive quelque chose, une grande chose spirituelle qui vous trouble? Oh là là. Mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cette cause que je suis venu dans cette heure. Père, glorifie ton nom. Et alors, une voix est venue du ciel, disant, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Les gens ont dit, ceux qui avaient entendu, ils ont dit que cela a tonné. Alors, quand l'agneau a pris le livre et a brisé ce premier sceau, Dieu a parlé de son trône éternel pour dire ce que ce sceau était, allait être révélé. Mais quand il fut placé devant Jean, c'était sous forme de symbole. Quand Jean l'a vu, c'était encore un mystère. Pourquoi? Il ne fut même pas révélé à ce moment-là. Il ne peut pas être révélé avant qu'il soit parlé ici au temps de la fin. Mais il est venu sous forme de symbole. Quand il a tonné, souvenez-vous, qu'un bruit fort, un coup de tonnerre, c'est la voix de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Un coup de tonnerre. Ils pensaient que c'était un tonnerre, mais c'était Dieu. Jean l'a compris, parce que ça lui a été révélé. C'était un tonnerre, et remarquez, le premier sceau s'ouvre. Le premier sceau, quand il fut ouvert, sous la forme d'un symbole, cela a tonné. Alors, qu'est-ce que ce sera quand il sera ouvert dans sa forme réelle? Il a tonné dès que l'agneau a brisé le sceau. Et qu'est-ce qu'il a révélé? Il ne se révélait pas complètement. Pour commencer, ce fut Dieu. Mettons ça sous forme de symbole. Ensuite, ce fut révélé. Trois choses, voyez. Cela s'avance. En venant du trône, premièrement, ça ne peut être ni vu ni entendu, ni quoi que ce soit, c'est scellé. Mais le sang de l'agneau a payé le prix. Il y a eu un tonnerre quand il s'est exprimé. Et quand il le fit, un cavalier sorti sur un cheval blanc. Mais ce n'était toujours qu'un symbole. Mais remarquez, ce serait connu dans les derniers jours. Mais c'est sorti comme un symbole d'Église. Oh, Église, comprenez-vous? Cela vient sous forme d'un symbole d'Église, et car ils savent qu'il y a un sceau, mais ce qu'il est réellement, ils ne le savent pas. C'est un cavalier au cheval blanc. Et ce doit être révélé dans les derniers jours, quand ce sceau, en réalité, est brisé. Brisé pour qui? Pas pour Christ, mais pour l'Église. Remarquez, maintenant. Oh là là, ça me fait trembler. J'espère que l'Église, vous, comprenez-vous les gens, je vais vous appeler épouse. Comprenez-vous cela? La voix est un tonnerre. D'où venait cette voix? Du trône où l'agneau venait juste de partir en tant qu'intercesseur. Maintenant, il se tient là pour prendre sa position, réclamer ce qui lui appartient. Mais le tonnerre est sorti de l'intérieur du trône. Il s'est mis à tonner. Et l'agneau se tenait là, dehors. Le tonnerre est venu d'où l'agneau était parti. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Gloire! Ne manquez pas cela, les amis. Nous savons tous en tant que chrétiens que Dieu a juré à David qu'il ressusciterait Christ pour le faire asseoir sur son trône et lui donner un royaume sans fin sur la terre. C'est ce qu'il a fait. Et Jésus a dit, « Celui qui vaincra l'Antichrist et toutes les choses du monde s'assiera avec moi dans mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis dans le trône de mon Père. » Un jour, il se lèvera du trône du Père et ira prendre son propre trône. Maintenant, il s'avance pour appeler ses sujets. Comment va-t-il les réclamer? Il a déjà le livre de la rédemption dans la main. Gloire! Oh, j'ai envie de chanter un hymne. Bientôt, l'agneau prendra son épouse pour l'avoir toujours à ses côtés. L'armée des cieux sera rassemblée pour regarder cela. Quelle vue merveilleuse! Tous les saints vêtus de blanc immaculé avec Jésus, nous nous réjouirons éternellement. Oh là là, mes frères, être assis maintenant dans les lieux célestes, que sera-ce alors si nous pouvons déjà maintenant ressentir les choses ainsi et en jouir, tandis que nous sommes ici sur cette terre, dans cette situation, nous nous trouvons maintenant, avant l'enlèvement, quand nous devons rester debout contre les murs ou dehors à la pluie pour écouter cela, que sera-ce quand nous le verrons assis là? Oh frère, ce sera un temps glorieux. Il a quitté le trône du Père. Son fils s'est avancé. Il est le fils de David. C'est ce qu'Israël pensait qu'il ferait alors. Souvenez-vous de la femme syrophénicienne disant, « Oh, toi, fils de David !» Souvenez-vous de l'aveugle Bartimée disant, « Toi, fils de David !» Et Jésus savait ce qu'était le plan, mais eux ne le savaient pas. Ils essayaient de le forcer à prendre le trône. Et même Pilate lui a demandé, mais il a dit, « Si mon royaume était de ce monde, mes sujets combattraient pour moi. Mais mon royaume est d'en haut. Il dit aussi, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme c'est glorieux. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Il est maintenant sorti de son œuvre d'intercession pour réclamer son propre trône et ses sujets rachetés. C'est pour faire cela qu'il est sorti du trône. C'est alors que le lion a dit à Jean, cette créature comme un lion, viens et vois. Vous êtes en train de lire cela? Et lorsque l'agneau ouvrit l'un des sept sceaux, j'entendis l'un des quatre animaux disant, un comme un lion, un comme un homme et un comme un aigle. Et remarquez, chaque fois, il y a un être vivant différent. Lorsque, jusqu'à ce que ces quatre cavaliers soient passés, il y a quatre cavaliers. Remarquez, chacun de ces êtres vivants annonce là Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous allons revoir cela et montrer lequel est Matthieu, lequel est Marc, lequel est Jean au fur et à mesure. L'un des êtres vivants, l'un des animaux, a dit, « Viens et vois. » Jean entendit le bruit d'un tonnerre, et l'un des êtres vivants dit, « Maintenant, viens et vois. » En d'autres termes, il y a l'agneau ici, et Jean se tient là-bas, regardant ces choses. L'agneau se lève du trône comme s'il avait été immolé. Il est couvert de sang. Il était celui qui avait été trouvé digne. Et quand il a tendu la main et pris le livre, alors tout a commencé à pousser des cris, des acclamations et tout le reste parce qu'il savait que le prix de la rédemption avait été payé. Il est venu réclamer les siens. Il prend le livre. Il se tient devant Jean. Il prend le livre. Il en brise les sceaux. Il ôte le sceau. Et quand il ôte le sceau, un coup de tonnerre retentit. Et quand ce coup de tonnerre éclate, ça lui fait sursauter Jean. Et l'un des quatre êtres vivants a dit, « Maintenant, viens et vois ce que c'est, ce qui est révélé là-dessous. » Oh là là! Jean, écris ce que tu vois. Alors Jean, va voir ce que c'est. Jean, va voir ce que le tonnerre a dit. C'est alors que cette créature dit à Jean, « Viens et vois ce qu'est le mystère sous le premier sceau. » Le tonnerre, la voix du Créateur qui a prononcé cela. Maintenant, c'est lui qui devait savoir ce que c'était. C'était bien lui. Oh là là. Mais pensez-y. Jean a écrit ceci, mais quand il a commencé à écrire ces autres sept tonnerres, il lui a dit, ne l'écris pas. Il avait été commissionné d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand ces sept tonnerres d'Apocalypse 10 ont fait entendre leur voix, il lui dit, ne les écris pas du tout, ce sont des mystères, mais nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Mais à mon avis, ils vont être révélés incessamment. Et quand ils le seront, ils donneront à cette Église la foi nécessaire pour obtenir la grâce de l'enlèvement. Nous parcourons simplement toutes les choses que nous connaissons tout au long de toutes les dispensations. Nous avons examiné toutes les choses. Nous avons vu les mystères de Dieu. Nous avons vu apparaître le grand rassemblement de l'épouse dans les derniers jours. Mais cependant, il y a quelque chose là avec lequel nous ne pouvons pas nous-mêmes nous donner la lumière. Il y a quelque chose. Maintenant, j'imagine, lorsque ces mystères commenceront à s'avancer, Dieu a dit, retiens-les maintenant. Attends une minute. Ne les écris pas, Jean, parce que les gens chancelleraient en voyant toutes ces choses. Laisse cela. Je leur révélerai le jour où ils auront sujet de le voir. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils ont parlé. Rappelez-vous que tout est dans un but. Tout est pour une cause. Remarquez, le Créateur a parlé. Et Jean, il a entendu cette voix, il est allé voir. Mais maintenant, l'agneau se montre sous la forme de symbole dans les Écritures de l'Église, dirait-on. Quoi écrire? Il dit, ne dis pas ce que c'est. Ne va pas, Jean. Regarde là, sous le septième sceau. Ne va pas dire cela. Alors, le plan... tout le plan serait bouleversé. C'est un secret, ne le dis pas. Personne ne saura quand je viens simplement, c'est tout. Ce n'est pas mon affaire de connaître quand, je dois simplement être prêt, vous voyez. La parole dit qu'ensuite Jean s'est avancé. Il pensait, je vais voir ces choses maintenant. Mais lorsque Jean s'est avancé, regardez, il doit écrire ces choses aux âges de l'Église. C'est ce qu'il est censé faire, écrire cela aux âges de l'Église. Il doit écrire ce que tu vois, les sept chandeliers d'or. écrit cela. Dis-leur. Très bien. Et un tonnerre a éclaté. Jean savait que c'était la voix de Dieu. Et puis, l'être vivant comme un lion dit, viens et vois ce que c'est. Jean s'est avancé, prenant la plume pour écrire ce qu'il allait voir. Maintenant, Jean n'a jamais vu exactement ce que c'était. Il n'a pas compris ce qu'il a vu. Mais ce qu'il a vu, c'est ce que Dieu a envoyé à l'Église pour un temps. Et maintenant, comme toujours, il le fait comprendre quand c'est le moment où cela doit être compris. Et il ne l'a pas expliqué à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il allait garder cela secret jusqu'au dernier jour. Alors, le message du dernier ange sonnerait de la trompette pour rassembler ces mystères et les rendre clairs. Mais ce que Jean a vu, il a vu simplement un cheval blanc qui sortait, monté par un cavalier. C'est donc cela qu'il a écrit. C'est pour voir cela qu'il lui fut dit, viens et vois. C'est pourquoi Jean allait regarder ce qu'il pouvait voir, écrire à l'église. Quand il vit un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et partait en vainqueur pour vaincre, lui fut donné une couronne. Maintenant, voilà tout ce que Jean a vu. C'est pour cela qu'il a écrit. Vous voyez, c'est montré sous forme de symbole. C'est de cette façon que l'église l'a reçu, mais avec la promesse qu'au dernier jour, il révélerait cela, qu'il montrerait ce que c'est, que Dieu nous aide à comprendre. Mais ces choses ne sont pas entièrement connues aux âges de l'Église dans ce dernier âge. Mais remarquez, il commence ce messager du septième âge. Il ne commence pas une dénomination comme les autres. Il ne commence pas, non. Si vous découvrez, il est opposé à cela. Élie, est-ce qu'il était contre cela? Certainement. Jean-Baptiste, est-ce qu'il était contre cela avec l'esprit d'Élie? Quel genre d'esprit reposait sur Élie? Personne ne connaît grand-chose d'Élie. Il n'était qu'un homme, mais c'était un prophète. Il était détesté, oh là là. Mes amis, à quelle époque s'est-il levé? Au moment même de la popularité d'Israël. Quand ils sont tombés dans la mondanité, c'est à ce moment-là qu'il est sorti du désert. C'est quelqu'un qui n'aimait pas les femmes, certainement. Il aimait le désert. C'était sa nature. Alors ces gens auraient dû discerner la venue de cet homme, Jean-Baptiste, qui avait en lui le même esprit. Il est venu là, Jean, non pas habillé comme les grands, les célébrités, comme j'ai dit hier soir, ceux qui embrassent les bébés, font des mariages, des ensevelissements, etc. Mais cet homme, il est sorti du désert comme un homme des bois. Qu'est-ce qu'il était? Il aimait le désert. Et autre chose, il détestait les dénominations. Il a dit, « Ne venez pas me dire, nous appartenons à ceci ou à cela, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. » Ce n'était pas quelqu'un qui faisait des compromis. Jésus a dit, « Est-ce que vous êtes allé voir dans le désert un roseau agité par le vent? » Ce n'était pas Jean. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à Hérodias, comme Élie le fit à Jézabel. Il est allé vers Hérode, et il lui a dit en face, « La loi ne te permet pas de l'avoir pour femme. » Et ils lui ont coupé la tête à cause de cela. Et Jézabel a essayé d'avoir Élie, le même esprit qui était en Jézabel, était dans cette femme. C'est la même chose qui se trouve dans l'église de Jézabel aujourd'hui. Maintenant, remarquez, quelle grande leçon nous avons là. Et maintenant, il semble que ces gens auraient dû savoir. Jean a commencé à crier contre ces gens, et il semble qu'ils auraient dû comprendre que c'était l'esprit d'Élie. Ils auraient dû comprendre cela. C'est ce qu'il était. Maintenant, nous voyons donc que d'un bout à l'autre des âges de l'Église, il nous est promis, conformément aux Écritures, un retour de cet esprit juste avant le temps de la fin. Est-ce vrai? Maintenant, et remarquez à sa nature. Maintenant, il ne commencera pas un autre âge de l'Église comme Luther, Wesley et les autres. Il ne commencera pas une autre Église parce qu'il n'y a plus d'âge de l'Église. Vous voyez? Il n'y en aura plus. C'est pourquoi il doit être contre cela, parce que son esprit sera exactement le même que celui d'autrefois. Ce sera le même esprit. Comme je disais hier soir, il a plu à Dieu de l'utiliser trois fois. C'est son nombre, trois. Pas deux, mais trois. Il l'a déjà utilisé deux fois. Il va maintenant l'utiliser de nouveau. C'est lui qui l'a dit. Il l'a promis. Maintenant, remarquez. Remarquez quand il a fait. Il ne fondera pas de dénomination, parce que l'âge de l'Église de Laodicée est le dernier âge, et que le messager, le septième messager, pour le septième âge de l'Église, C'est le gars qui va révéler par le Saint-Esprit toutes ces choses mystérieuses. Combien étaient ici hier soir? Levez la main. Il n'est donc pas nécessaire que je le lise. Vous savez que c'est dans le 10e chapitre, n'est-ce pas? Très bien. Chaque réformateur est venu pour réformer l'âge de l'Église déchue qu'il avait précédé. Et alors, après être venu, après avoir réformé l'âge de l'Église, en le ramenant d'où il était tombé, ils retournèrent dans le monde et commencèrent un nouvel âge de l'Église. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Toujours. Maintenant, nous avons vu cela. Oui. En d'autres mots, il y avait ici un âge de l'Église catholique, l'âge de l'Église catholique romaine. Puis est venu Luther, un réformateur, appelé réformateur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à frapper à grands coups protestants contre les hérésies de l'Église. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à établir quelque chose de semblable à ce qu'il était venu chasser, une autre Église. Alors ils ont un autre âge de l'Église. Et voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une telle confusion. Alors arrive John Wesley, un autre réformateur. Vous voyez? Et il construit un autre âge de l'Église. Voyez-vous ce que je veux dire? Un autre âge de l'Église est établi. Tous étaient des réformateurs. Maintenant, remarquez. Ce dernier message du dernier âge de l'Église, ce dernier messager, n'est pas un réformateur, c'est un prophète. Pas un réformateur. Montrez-moi où un prophète a commencé un âge de l'Église. Ce n'est pas un réformateur, il est un prophète. D'autres furent des réformateurs, mais pas des prophètes. La parole de Dieu vient aux prophètes. C'est la raison pour laquelle les autres ont continué à baptiser en invoquant les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, à faire toutes ces autres choses, parce qu'ils étaient des réformateurs et non pas des prophètes. Malgré tout, c'était de grands hommes de Dieu qui voyaient les besoins de l'époque dans laquelle ils vivaient. Dieu les avait oints, ils furent envoyés et mis en pièces. Ils ont mis ces choses en pièces, mais la pleine parole de Dieu ne vint pas à eux parce qu'ils n'étaient pas prophètes, ils étaient des réformateurs. Mais dans les derniers jours, il faudra que ce soit un prophète qui prenne les mystères de Dieu, parce que les mystères ne sont connus que par les prophètes. C'est pourquoi il faut que ce soit ce genre d'homme. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Ça ne peut pas être un réformateur. Il doit être un prophète, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait ce don. C'est ce don en lui qui saisit la parole. Les réformateurs savaient bien que quelque chose n'allait pas. Luther savait que le pain n'était pas réellement le corps de Christ. C'est pourquoi il a prêché « Le juste vivra par la foi ». C'était son message. Et quand John Wesley est venu, il a vu qu'il y avait la sanctification. C'est pourquoi il a prêché la sanctification. C'était son message. Vous voyez, les pentecôtistes ont apporté le message du Saint-Esprit et ainsi de suite. Mais dans les derniers jours, dans ce dernier âge, le messager ne commencera pas de réforme, mais il doit prendre tous les mystères que ces réformateurs avaient laissés pour les rassembler et en apporter la solution aux gens. Disons-le à nouveau, ça me semble une bonne chose que j'aime le relire. Et je vis un autre ange puissant descendre du ciel, revêtu d'une nuée, l'arc-en-ciel sur sa tête et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Nous avons vu la même chose et c'était Christ. Et nous savons que Christ est toujours le messager pour l'Église. Il est appelé la colonne de feu, l'ange de l'Alliance, etc. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Maintenant, les sceaux sont brisés ici. Nous sommes maintenant de les briser, mais là, le livre est ouvert. Et il mit son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre, et il cria d'une voix haute, comme un lion rugit. Et quand il cria, sept tonnerres firent entendre leur voix. My. Complet. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, moi, Jean, j'allais écrire ce qu'ils ont dit. Et j'entendis une voix du ciel disant, scelle ces choses que les sept tonnerres ont fait entendre, ne les écris pas, ne les écris pas. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre a levé la main droite vers le ciel, et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, lequel a créé les cieux et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Regardez. N'oubliez pas ceci maintenant alors que nous continuons. Mais au jour de la voix du septième ange, le dernier ange, l'ange terrestre. Cet ange descend du ciel. Ce n'était pas lui. Il vient du ciel. Mais ici, question de la voix du septième ange. Ange veut dire messager, tout le monde sait cela. Et un messager pour l'âge de l'Église, au jour de la voix du septième ange, quand il commencera à sonner de la trompette, les mystères, les sept sceaux, tous les mystères de Dieu devraient être terminés comme il l'a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Le mystère entier est ouvert. C'est le ministère de cet ange. Ce serait si simple, et ça passe au-dessus de la tête des gens. Mais ce sera parfaitement confirmé partout. Ce sera parfaitement connu. Tous ceux qui voudront le voir pourront le voir. C'est vrai. Mais Jésus a dit, comme Ésaïe l'a dit, vous avez des yeux et vous ne pouvez pas voir. Vous avez des oreilles et vous ne pouvez pas entendre. Ainsi nous voyons. Moi, j'ai eu peur. En regardant l'horloge, j'ai cru qu'il était déjà 10 heures. Mais heureusement, il n'est que 9 heures. Très bien. Oh là là! Remarquez. J'aime ceci. Les autres étaient réformateurs. C'étaient de grands hommes de Dieu. Ils ont vu le besoin du jour et ils ont apporté la réformation, la réforme. Mais Apocalypse 10 dit que le message de cet ange était de révéler, pas de réformer. Révéler les secrets. Révéler les secrets. C'est la parole dans l'homme. Hébreux 4 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante, séparant, révélant les secrets du cœur. Vous voyez? Cet homme, donc, n'est pas un réformateur, c'est un révélateur. Révélateur de quoi? Des mystères de Dieu. Où l'Église a tout lié et embrouillé. Il s'avancera avec la parole de Dieu et révélera les choses parce qu'il vient pour restaurer la foi des enfants au Père. La foi biblique originelle doit être restaurée par le septième ange. Oh, combien j'aime cela. Tous les mystères des sceaux que les réformateurs n'avaient jamais compris complètement, voyez, maintenant. Regardez Malachie 4, juste une minute, si vous voulez le noter. Il est un prophète et il restaure la foi originelle des pères. Nous attendons à ce que cette personne apparaisse sur la scène. Il sera si humble, 10 millions de 10 millions, ce sera juste un petit groupe. Souvenez-vous ce jour-là, lorsque Jean devait venir, il fut prophétisé qu'un messager viendrait avant Christ, une voix de quelqu'un criant dans le désert. Malachie 4 l'avait vu, voyez, le troisième chapitre de Malachie est celui de la venue d'Élie qui devait venir préparer la première venue de Christ. Vous direz, non, frère Branham, c'était le chapitre 4. Je vous demande pardon. Jésus a dit que c'était le troisième chapitre. Maintenant, prenez Matthieu 11, 6. Je pense que là, au verset 6, il a dit, si vous pouvez le recevoir, il parle de Jean, c'est celui dont j'ai parlé, j'envoie mon messager devant ma face. Quelques-uns essaient de l'appliquer à Malachie 4. Non, monsieur, ce n'est pas ça. Remarquez, Malachie 4, aussitôt que le messager s'en va, le monde est complètement brûlé et les justes entrent dans le millénium et marchent sur les cendres des méchants. Ainsi, vous voyez que si vous appliquez cela au premier passage des Écritures, la Bible dit quelque chose qui n'est pas juste. 2000 ans ont déjà passé sans que le monde ait brûlé et que les justes y vivent. Ce doit donc se passer dans le futur. Oh frère, si vous ouvrez l'Apocalypse et que vous regardiez ce que doit faire ce messager à la fin de cet âge, vous comprendrez ce que c'est. Il doit être un prophète. Il doit prendre ces choses laissées en suspens que les réformateurs n'ont pas vues et les mettre à leur place. Comment peut-on comparer Matthieu 28, 19 avec Actes 2, 38 sans la révélation spirituelle de Dieu? Comment ces gens peuvent-ils dire que les jours des miracles sont passés et d'autres choses comme cela? C'est simplement parce qu'ils n'ont pas la révélation de Dieu. La révélation est le seul moyen de reconnaître si c'est vrai ou faux, voyez. mais ils ont passé par le séminaire. J'espère avoir le temps d'entrer dans ce sujet. Maintenant, je vais me hâter parce que je ne veux pas vous garder ici plus d'une semaine pour l'ouverture des seaux. J'aimerais, si possible, réserver un jour pour prier pour les malades. Maintenant, remarquez ici Malachie 4. Ce sera un prophète qui restaure la foi originelle des pères. Au temps de la fin, vient la période de tribulation. Il y a ici quelque chose sur quoi nous allons revenir un instant. Il y a ces 3 ans et demi, il y a les 70 semaines de Daniel, la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel, 3 ans et demi. Maintenant, combien se souviennent d'avoir vu cela dans les âges de l'Église? 70 semaines ont été déterminées. Voyez comme c'était parfait. Puis viendra le Messie et sera retranché pour être offert en sacrifice au milieu de la semaine, puis le sacrifice perpétuel cessera. Il reste donc en réserve 3 ans et demi pour que la doctrine messianique soit apportée aux Juifs, car Dieu ne s'occupe pas des Juifs et des nations en même temps. Il s'occupe d'Israël en tant que nation et des nations en tant qu'individu. Il ne prend pas les nations comme épouse, il prend un peuple hors des nations. Voyez? Maintenant, il traite avec Israël en tant que nation. Et Israël est là maintenant, actuellement, en tant que nation. J'ai reçu une lettre de Paul Boyd dans laquelle il me disait, « Frère Branham, comme il est vrai que ces Juifs éprouvent encore des sentiments curieux envers les nations, quoi qu'il ait pu arriver. » C'est certainement, c'est normal. Martin Luther y fit la proclamation que tous les Juifs devraient être chassés et leurs maisons brûlées parce qu'ils étaient des antichrists. Vous voyez? Martin Luther fit lui-même cette déclaration dans ses écrits. Or, Hitler a accompli exactement ce que Martin Luther avait dit. Pourquoi Martin Luther avait-il dit cela? Parce qu'il était un réformateur, pas un prophète. Dieu prend un prophète pour bénir Israël. Il avait dit, « Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. » Comment un prophète pourrait-il se lever et contredire ce qu'un autre prophète a dit? Il ne le peut pas. Tout doit être en harmonie. Voyez-vous, l'Allemagne est censée être une nation chrétienne. Voyez pourtant la façon dont elle a traité Israël. Ils portent encore la marque du châtiment sur leurs épaules. Vous ne pouvez pas les blâmer. Mais s'il y a ici quelques Juifs, souvenez-vous de ceci, ne vous en faites pas, votre jour arrive. Dieu ne peut pas les oublier. Ils ont été aveuglés à cause de nous. Le prophète s'écria, « Oublieras-tu Israël ?» Dieu lui dit, « Prends ce bâton à mesurer et dis-moi, quelle est la hauteur du ciel et quelle est la profondeur de la mer ?» Il répondit, « Je ne peux pas mesurer cela. » Dieu reprit, « De même, je ne pourrai jamais oublier Israël. » C'est son peuple, ses serviteurs, et parmi les nations, il n'en a pris que quelques-uns pour faire son épouse. C'est parfaitement vrai. C'est l'épouse. C'est l'épouse. Maintenant, ces 70 semaines furent déterminées parfaitement, comme l'a dit Daniel, en annonçant que le Messie viendrait et serait retranché au milieu de la semaine. Jésus a prophétisé pendant 3 ans et demi, et comme le prédit Daniel, au milieu de cette dernière semaine, 3 ans et demi, il fut retranché. Maintenant, la dernière partie est la période de tribulation où l'Église des nations, oh, c'est glorieux, ne le manquez pas, l'épouse entre avec l'époux. Ensuite, après le millénium, elle sort et foule la cendre des méchants. Oh, je vais vous montrer quelque chose. Tandis que nous avons ces choses à l'esprit, je vais vous montrer ce que dit la Bible. Nous ne pouvons pas nier quelle est la parole de Dieu. Si nous le faisons, alors nous sommes des infidèles. Nous devons la croire. Vous direz, je ne le comprends pas, moi non plus, mais je m'attends à ce que lui, il le révèle. Écoutez, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains, comme les Américains, etc. Et tous les méchants seront comme du chaume, ça va brûler. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Où trouvez-vous là-dedans un feu éternel? Il s'agit des derniers jours, des temps où ces choses sont révélées. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où il est dit que l'enfer soit éternel. Pour que ce soit un enfer éternel, il faudrait que vous ayez la vie éternelle pour pouvoir y rester. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et c'est elle pour laquelle nous luttons. Tout ce qui a un commencement a une fin. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges qui seront consumés et anéantis. C'est vrai. Oui. Et quand ceci arrivera, il ne restera ni racine ni rameau. Mais, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Que vont devenir les méchants après la tribulation? Des cendres. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Amen. C'est ainsi que l'Ancien Testament se termine et le Nouveau Testament se termine exactement de la même manière. Comment pouvez-vous négliger cela? Regardez, je vous enverrai Élie le prophète avant que ce jour arrive. Et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Vas-y, voilà, c'est la parole du Seigneur. Il l'a promis, ça doit arriver. Maintenant, si vous remarquez comment cela arrive, c'est beau comme Dieu fait les choses. L'époux s'avance avec l'époux. Et après cela, les méchants sont brûlés dans un feu inextinguible. Ensuite, après que le monde ait été purifié, il se reproduira. Tout doit passer par là. Tout doit passer par un stade de purification. Les volcans en éruption et les derniers moments, dans ces derniers moments glorieux, le monde éclatera et vomira du feu et tous ces cloaques de péché et tout ce qui est sur la terre, tout cela sera fondu et réduit à néant. Cela brûlera avec une telle ardeur que cela fera comme le décolorant qui renvoie la couleur de l'encre à sa création originelle. Ainsi, le feu de Dieu sera si ardent qu'il ramènera toutes les choses souillées à leur état premier. Cela arrivera quand Satan et tout le péché sera consumé, ainsi toutes choses. Alors la terre deviendra aussi belle qu'elle était dans le jardin d'Éden. Oh, cette heure glorieuse est là devant nous. Pendant la période de tribulation, voici ce que je veux que vous remarquiez ici. Pendant cette période de tribulation, après que l'épouse a été enlevée et que l'Église traverse la période de tribulation, les 144 000 sont appelés par les deux témoins d'Apocalypse 11. Maintenant, regardez. Ils prophétiseront 1260 jours revêtus de sacs. D'après notre calendrier romain, nous avons des mois de 28, 30 et parfois 31 jours. Mais en réalité, le calendrier ne comprend que des mois de 30 jours. Et si vous divisez 1260 jours par 30, regardez ce que vous avez. Exactement 3 ans et demi. C'est le temps accordé pour prêcher le message messianique à Israël, comme cela fut déjà fait une première fois, lorsqu'il revient et se fait connaître lui-même sous forme de symbole. Lorsque Joseph fut emmené par ses frères et rejeté, c'est parce qu'il était un homme spirituel qui avait des visions et pouvait interpréter des songes. Et lorsqu'il le fit, il fut emmené dans les champs et vendu pour environ 30 pièces d'argent. Il était exactement le portrait de Christ parce que c'était l'esprit de Christ en lui. Remarquez ce qui est arrivé alors. Et remarquez que lorsque cela lui est arrivé, il fut jeté en prison. Et là, un homme fut sauvé et un autre perdu, exactement comme Jésus quand il fut mis en prison sur la croix. Un voleur fut sauvé et l'autre perdu, exactement. Joseph fut jeté dans une fosse et fut comme mort. Puis on l'en fit sortir, il fut élevé à la droite de Pharaon, en sorte que personne ne pouvait voir Pharaon sans d'abord voir Joseph. Jésus est assis à la droite de Dieu, et aucun homme ne peut venir au Père si ce n'est par le Fils. C'est vrai. Et remarquez que chaque fois que Joseph se levait de la droite de ce trône, que se passait-il? Gloire! Là, Joseph était assis à la droite de Pharaon. Et lorsque Joseph se levait pour quitter ce trône, la trompette sonnait. Tout le monde à genoux, Joseph vient. Lorsque cet agneau quittera le trône là-haut, ainsi que son œuvre de médiation, lorsqu'il quittera le trône, prendra ce livre de rédemption et s'avancera, tout genou fléchira. Le voici qui vient. Remarquez qu'il fut donné une épouse des nations à Joseph après qu'il eut été rejeté par ses frères. Potiphar. Pharaon lui donna une épouse, on a des nations, et elle lui donna des enfants, à moitié des nations, à moitié juifs. Nous avons là un glorieux symbole de ce qui se passa lorsque Jacob les bénit, Ephraïm d'un côté, Manassé de l'autre. Il croisa les mains pour donner la bénédiction aux plus jeunes, et les deux enfants furent ajoutés au nombre des tribus, les amenant ainsi à 12, et il les bénit en Jacob lui-même. Alors Joseph, son fils, prophète, qui était présent, déclara, « Père, tu t'es trompé, tu as mis la main
La bénédiction est à ma droite. Je suis le plus jeune enfant, alors qu'elle aurait dû aller sur l'aîné. Jacob répondit, « Je sais que mes mains étaient croisées, mais c'est Dieu qui les a croisées. » Pourquoi? Israël, qui avait le droit d'être une épouse, le rejeta et vendit son droit d'aînesse. C'est ainsi que celui-ci passa du fils aîné Israël aux plus jeunes, les nations, et que c'est par le moyen de la croix que les bénédictions passèrent de l'un à l'autre. Mais remarquez, après cela, quand il avait pris son épouse, mais quand les fils de Jacob descendirent en Égypte pour acheter de la nourriture, oh, c'est une image tellement merveilleuse. Je suis sorti du seau, mais il fallait que je dise cela, parce que je crois que c'est ainsi que vous verrez mieux cette image. Remarquez, quand ils sont descendus pour acheter de la nourriture, vous savez que Joseph les a reconnus tout de suite. Et Joseph était le fils de la prospérité. Où qu'il allait, il prospérait toujours. Attendez que lui, notre Joseph, vienne sur la terre. Le désert fleurira comme une rose. Et le soleil de justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Oh frère, tous ces cactus de l'Arizona s'épanouiront alors en de beaux arbres. Ce sera magnifique. Remarquez, il s'avance ici. Et là, il leur joue un petit tour. Il se tient devant eux et leur demande, « Votre père vit-il encore ?» Oui, il voulait savoir si le père de ces hommes était encore vivant. Ils dirent, « Oui, Joseph savait que c'était ses frères. » Mais remarquez, quand il fut prêt à se révéler à ses frères, et qu'il trouva le petit Benjamin, né depuis qu'il était parti. Et celui-ci représente les Juifs, ces 144 000 qui se rassemblent maintenant, depuis que Jésus est parti. Il regarda Benjamin, et son cœur se mit à battre fortement. Rappelez-vous que ses frères ne savaient pas qu'il parlait l'hébreu. Il avait fait venir un interprète et faisait comme s'il était égyptien. Voyez? Et alors, lorsqu'il se fit connaître, et il désirait se faire connaître, il continua à garder le petit Benjamin. Rappelez-vous qu'il avait éloigné son épouse. Elle était dans le palais. Quand il se fit connaître à ses frères, de même, après avoir été rejeté par son propre peuple, par sa propre famille, Jésus a pris une épouse des nations qu'il amènera d'ici-bas dans le palais, dans la maison de son père, dans la gloire pour le souper des noces. Ensuite, il descendra vite pour se faire connaître par ses frères, les 144 000. Il se tient là. Rappelez-vous que ces symboles sont parfaits. Et quand il est revenu, là où se passaient ces choses, il les a regardés. Ils avaient commencé à parler entre eux. Il disait, « Maintenant, Ruben, c'en est fait de nous maintenant. Parce que tu sais que ce que nous avons fait, nous avons jeté cet enfant dans la citerne. Nous n'aurions pas dû vendre notre frère. Et leur frère, ce prince puissant, était là devant eux et ils ne le savaient pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Israël ne peut pas le comprendre. L'heure n'est pas encore venue de le reconnaître. Et alors, Joseph disait qu'il ne comprenait pas l'hébreu. Cependant, il comprenait tout ce qu'il disait. Et eux, ils disaient, maintenant, c'en est fait de nous. Mais Joseph, quand il les regarda, ne put en supporter davantage. Rappelez-vous que sa femme et ses enfants étaient dans le palais à ce moment-là. Les saints sont sortis de leur présence. Alors il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère. » Alors il courut vers le petit Benjamin, se jeta à son cou et se mit à pleurer. Ensuite, il se fit connaître. Alors il dit, « Cela devait nous arriver, parce que nous l'avons vendu. C'est nous qui l'avons vendu. C'est nous qui avons essayé de le tuer, et maintenant nous savons qu'il va nous tuer. » Mais il lui dit, « Non, ne vous irritez pas contre vous-même. C'est pour préserver la vie que vous avez fait cela. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé ici. » La Bible dit que quand Jésus se fera connaître aux 144 000, quand il se fera connaître au petit Benjamin d'aujourd'hui et au reste des Juifs restés là-bas, ils diront, « Où as-tu reçu ces blessures? Qu'a-t-on fait à tes mains ?» Il répondra, « C'est dans la maison de mes amis que je les ai reçus. » Alors ils réaliseront que c'est le Messie qu'ils ont tué. Et que dira-t-il? La même chose que Joseph avait fait pour préserver la vie. Ne soyez pas irrités contre vous-même, parce que les nations n'auraient pas pu entrer si les Juifs n'avaient pas été aveuglés. C'est ainsi que Dieu a sauvé la vie de l'Église au moyen des choses que les Juifs ont faites. Voilà, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas comprendre aujourd'hui. L'heure n'est pas encore venue. Et nous non plus ne pouvions pas comprendre avant qu'arrive le temps où cela devait être compris. Les sept tonnerres d'Apocalypse. Puissent-ils montrer à l'épouse comment se préparer pour la grande foi de l'enlèvement. Maintenant, dépêchons-nous parce qu'il ne reste plus que 15 à 20 minutes. Maintenant, que signifie ce cheval blanc? Lisons. Je m'en suis tellement éloigné. Pardonnez-moi d'être ainsi sorti de mon sujet. Je vais lire de nouveau les deux versets d'Apocalypse 6, 1 et 2. Et je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un des seaux. J'entendis l'un des quatre animaux disant comme une voix de tonnerre, « Viens et vois. » Et je vis, voici un cheval blanc, et celui, un cheval blanc, et celui qui était assis dessus ayant un arc, et une couronne lui fut donnée, il n'en avait pas encore. Et il sortit comme vainqueur, et pour vaincre, tout est là, c'est un sceau. Maintenant, trouvons les symboles. Nous avons vu ce que signifiait le tonnerre, nous le savons maintenant, le tonnerre est la voix de Dieu quand le sceau est ouvert. Maintenant, que signifie le cheval blanc? C'est ici que vient la révélation. C'est aussi positif que ma présence ici, je sais que c'est la parole. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver là-dessus. Et la dernière fois que j'ai essayé d'aborder la question, il y a environ 30 ans, j'ai pris le livre, quelqu'un m'avait dit qu'à sa connaissance, personne n'avait autant de lumière sur la seconde venue de Christ que les adventistes. Ainsi, je me suis procuré quelques-uns des meilleurs livres avant de les lire. J'ai pris le livre de Smith, la révélation de Daniel. Il disait que ce cheval blanc qui s'avançait était blanc et qu'il était le symbole d'un conquérant. Et que pendant sa conquête, beaucoup d'entre vous, frères adventistes qui êtes ici, connaissaient ce livre, ainsi que beaucoup d'autres frères qui l'ont lu, j'en ai lu deux ou trois autres, et tous s'accordaient pour dire que c'était vrai. Leurs auteurs étaient de bons docteurs, censés être parmi les meilleurs, ayant sur ce sujet la meilleure lumière. Et je pensais, eh bien, si je ne sais pas, je dirai ce qu'ils disent. J'essaierai d'enseigner comme eux. Ils donnaient une très bonne explication sur ces choses. Et ils disaient, maintenant voici un cheval blanc. Et un cheval blanc, c'est une puissance. Un cheval de bataille. Il disait, cet homme assis sur le cheval blanc était le Saint-Esprit qui est sorti dans les âges du début et qui a conquis cet âge pour le royaume de Dieu. Et il avait un arc dans la main, ce qui signifie qu'il était comme Cupidon. Il tirait des flèches d'amour dans le cœur des gens, des flèches de l'amour de Dieu, et il vainquit. Maintenant, ça a l'air très bien, mais ce n'est pas la vérité. Non, monsieur. Ce n'était pas. Blanc signifie juste, nous réalisons cela. Le blanc représente la justice. Les docteurs ont enseigné que c'était le Saint-Esprit conquérant dans le premier âge. Mais ma révélation de cela par le Saint-Esprit n'est pas ainsi. Ma révélation par le Saint-Esprit, c'est que Christ et le Saint-Esprit sont la même personne, seulement sous une forme différente. Ainsi se tient Christ ici, l'agneau. Nous savons qu'il était l'agneau. Il est là, debout, tenant le livre dans la main, alors que part le cavalier sur le cheval blanc. Vous voyez? Ainsi, ce n'était pas le Saint-Esprit. C'est là un des mystères des derniers jours. Comment Christ peut-il être les trois personnes en une? Ce ne sont pas trois personnes différentes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui seraient trois dieux, comme les trinitaires essaient de nous le faire croire. Ce sont trois manifestations de la même personne. On pourrait appeler trois offices de la même personne. Si je parle des ministres, je n'utiliserai pas le mot de fonction. Je ne dois pas oublier que je suis enregistré. Il est évident que Christ ne pouvait pas dire, « Je vais prier mon office et il vous enverra un autre office. » Nous savons cela. Mais si vous préférez, disons que ce sont trois attributs du même Dieu. Non pas trois dieux, mais trois attributs du même Dieu. Vous voyez? Ainsi, comment Christ pourrait-il être là-bas, conquérant sur un cheval blanc et se tenir en même temps ici avec un livre dans la main? Ce n'est pas ainsi. Ce n'est donc pas Christ. Remarquez. Maintenant, le Saint-Esprit, la révélation est Christ. Le Saint-Esprit est Christ sous une autre forme. C'est vrai. Remarquez que c'est l'agneau qui ouvre le livre. Et l'agneau est Christ. Et on ne voit plus Christ nulle part depuis là, jusqu'au 19e chapitre de l'Apocalypse, où il vient sur un cheval blanc. Si vous voulez le lire, prenons Apocalypse 19, 11 à 16. Lisons-le rapidement pendant qu'il nous reste assez de temps. J'espère, afin que ce soit plus clair pour nous. 19, 11, verset 11, jusqu'au 16. Et je vis le ciel ouvert. Et voici un cheval blanc, pas sur la terre, mais dans le ciel. Oui. Et celui qui est assis dessus est appelé fidèle, véritable. Il juge et combat en justice. Et ses yeux sont une flamme de feu. Et sur sa tête, il y a plusieurs couronnes. Pensez à ses diadèmes. Et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. J'aimerais m'arrêter ici un instant. Oh là là, j'ai l'impression. Personne ne le sait. Saviez-vous que le nom de Jéhovah n'est pas correct? N'importe qui sait. Dr. Vail, vous savez que c'est vrai, les traducteurs n'ont jamais pu le traduire. C'est J-V-H-U. J-V-H-U. Ce n'est pas un Jéhovah. Ils n'ont pas pu y toucher. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils l'ont appelé Jéhovah. Mais ce n'était pas son nom. Regardez, chaque fois qu'une victoire est gagnée ou que quelque chose arrive, un nom est changé. Voyez ce qui s'est passé au temps d'Abraham. D'abord, c'était Abraham. Et il ne put jamais avoir d'enfant tant que son nom n'eût pas été changé en Abraham. Et Sarai, S-A-R-A-I, demeura stérile jusqu'à ce que son nom soit changé en Sarah. Jacob veut dire supplanteur, trompeur, et c'est ce qu'il était. Il se couvrit d'une peau de chevreau et trompa son père, le prophète, pour s'emparer du droit d'aînesse. Il mit des branches de peuplier dans l'eau et effaroucha les bêtes portantes afin qu'elles missent bas des petits tachetés. Il n'en était rien d'autre qu'un trompeur. Mais une nuit, il s'est saisi de quelque chose de réel. Il savait que c'était réel. Et il est resté avec cela et il s'est accroché jusqu'à ce qu'il eut la victoire. Alors son nom fut changé en celui d'Israël, ce qui signifie « prince avec puissance devant Dieu ». Simon était un pêcheur. Mais quand sa foi a trouvé prise et qu'il sut que c'était Jésus, quand Jésus lui révéla qu'il était le Messie, lui dit quel était son nom, quel était le nom de son père, il fut vaincu et son nom fut changé de Simon en Pierre. Saul était un nom bien, pas un nom Israël dans le nom de Saül, mais ce nom ne convenait pas à un apôtre. Aussi Jésus a changé son nom en celui de Paul. Voyez également, il a changé de Saul en Paul. Voyez également les fils du tonnerre et tous les autres. Et pour ce qui est de Jésus, son nom sur la terre était le Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais quand il a conquis la mort et le séjour des morts, il les a vaincus, il s'est élevé dans le ciel et il a reçu un nom nouveau. C'est pourquoi malgré tous les cris, les gens crient comme cela, ils n'obtiennent rien. Ce sera révélé dans les tonnerres. Remarquez le mystère. Il vient, il chevauche. Ça doit être quelque chose pour transformer cette église, vous le savez. Il faut qu'il y ait quelque chose. Remarquez. Aucun homme ne le connaissait pas si ce n'est lui-même. Maintenant, remarquez. Aucun homme ne le connaissait si ce n'est lui-même. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Oh. Remarquez. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur, et une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche, afin qu'il en frappe les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, et foulera la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu, le Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Voici le Messie. Le voici. Lui, non pas cet autre personnage sur ce cheval là-bas. Observez la différence. Il est ici debout, tenant le livre dans la main. L'œuvre de la rédemption vient d'être achevée, mais il n'a pas encore pris sa place. N'était donc pas le Christ de Saint-Esprit qui s'avançait. Ce n'est pas que je veuille être en désaccord avec ces grands hommes. Non, ce n'est pas ce que je désire, mais c'est la révélation que j'ai eue de ce que c'est. Si vous avez quelque chose de différent, c'est très bien pour vous, mais pour moi, je le crois de cette manière. Et remarquez, on ne le voit plus, vous voyez, Christ, depuis ce moment-là, mais il est sur un cheval blanc. Ainsi donc, si cet individu chevauche un cheval blanc, il n'est qu'un imitateur de Christ. Vous voyez? Vous avez saisi cela? Remarquez que le cavalier sur le cheval blanc n'a pas de nom. Il pourrait utiliser deux ou trois titres, mais il n'a aucun nom. Mais il n'a pas de nom. Mais Christ a un nom. Et qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Le cavalier n'a pas de nom. Mais Christ est appelé la parole de Dieu. C'est ce qu'il est. Il est appelé ainsi. Il a un nom que personne ne connaît. Mais il est appelé la parole de Dieu. Cet individu, lui, n'a aucun nom. Mais cependant, il est sur un cheval blanc. Le cavalier n'a pas de flèche pour son arc. Avez-vous remarqué? Il a un arc, mais rien n'est dit au sujet des flèches. Donc, ce doit être un bluffeur. C'est vrai. Il a peut-être beaucoup de coups de tonnerre, mais pas d'éclairs. Mais vous voyez que Christ a les deux, l'éclair et le tonnerre, car de sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants avec laquelle il frappe les nations, tandis que cet individu-là ne peut rien frapper. Il ne fait que jouer le rôle d'un hypocrite. Il s'avance sur un cheval blanc, sortant pour conquérir. Christ avait une épée aiguë. Et regardez, elle sortait de sa bouche. C'est la parole vivante. C'est la parole de Dieu révélée à ses serviteurs, comme il le disait à Moïse, « Va, tiens-toi là, étends ta verge et appelle les mouches. » Et il y avait des mouches, certainement. Quoi qu'il disait, Dieu l'accomplissait, et cela arrivait. Il était la parole vivante, Dieu. Et sa parole sont une seule et même personne. Dieu est la parole. Qui est donc ce cavalier mystérieux du premier âge de l'Église? Qui est-il? Réfléchissez un petit peu. Qui est ce cavalier mystérieux qui commence sa course au premier âge de l'Église et qui la poursuit jusqu'à entrer tout droit dans l'éternité où il arrive à sa fin? Le deuxième sceau apparaît et sort en se dirigeant tout droit vers la fin. Le troisième sceau apparaît et sort en se dirigeant tout droit vers la fin. C'est pareil pour le quatrième, cinquième, sixième et septième sceau. Chacun d'eux se déroule et finit par se terminer ici à la fin. Ainsi, au temps de la fin, sont ouverts ces livres qui avaient été enroulés pendant tout ce temps avec ces mystères en eux. Alors le mystère sort afin que l'on voit ce que c'est. Mais en fait, ils ont pris leur départ au premier âge de l'Église parce que le premier âge de l'Église a reçu le message, tout comme celui-ci. Le cavalier au cheval blanc est sorti. Voyez, qui est-ce? Il est puissant dans sa puissance conquérante. C'est un grand personnage, grand par sa puissance. Mais vous, que je vous dise qui il est? C'est l'Antichrist. Exactement ce qu'il est. Maintenant, parce que vous voyez, Jésus a dit que les deux seraient tellement proches au point de séduire les élus même, l'épouse, si c'était possible. L'Antichrist. L'Antichrist, cet esprit. Souvenez-vous que dans les âges de l'Église, lorsque nous avons ouvert le premier âge, nous avons découvert que le Saint-Esprit était contre une certaine chose qui avait commencé en cet âge de l'Église, et c'était les œuvres des Nicolaïtes. Vous vous souvenez? Nico signifie conquérir. Laïcité signifie l'Église, les laïcs. Les Nicolaïtes, ce sont ceux qui conquièrent les laïcs, qui ôtent le Saint-Esprit de l'Église et donnent tout à un seul homme saint afin que cet homme soit le maître en tout. Oui. Le Nicolaïsme. Remarquez que le Nicolaïsme fut quelque chose dont on parlait dans une église, puis dans l'âge de l'église qui suivit, cela devint une doctrine. Dans ce premier âge, on mit cela en vigueur. Et puis il y eut le concile de Nicée. Ainsi, c'est alors qu'ils en ont fait une doctrine dans l'église. Et quelle est la première chose qui est arrivée? Une organisation est sortie de ça. Maintenant, n'est-ce pas vrai? Dites-moi d'où est sortie la première église organisée. L'Église catholique romaine. Dites-moi, les Écritures ne disent-elles pas dans Apocalypse 17:5 qu'elle était une prostituée et que ses filles étaient aussi des prostituées? C'est pareil pour ceux qui sont organisés avec elles. Ce sont des prostituées. Elles ont pris les abominations et les souillures de leur fornication pour doctrine, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Remarquez, regardez, il prit le départ pour conquérir. Remarquez, Il n'avait pas de couronne. C'est du cavalier monté sur le cheval blanc dont je parle ici. Voyez, un arc et une couronne lui furent donnés ensuite. Il n'avait pas de couronne pour commencer, mais une couronne lui fut donnée. Remarquez que plus tard, une couronne lui fut donnée. Il en eut même trois. Trois en une. Cela se passa 300 ans après, au Concile de Nicée, quand ce cavalier commença un esprit de nicolaïsme pour former une organisation parmi le peuple. Et ensuite, cela se perpétua jusqu'à devenir quelque chose dont on parlait, puis cela est devenu une doctrine. Souvenez-vous que Christ, parlant à l'Église, dit « Mais tu as ceci que tu es les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je hais. » Or, il essayait de conquérir en mettant les Saintes Écritures entre les mains d'un seul homme saint, lequel eut alors le pouvoir de pardonner tous les péchés. Et nous venons de lire le passage où Paul parle de cela, qu'au dernier jour, cette chose s'installerait et qu'elle ne pourrait être révélée que dans les derniers jours. Alors celui qui la retenait enlèverait de là l'Esprit de Dieu et se révélerait. Aujourd'hui, il est sous le déguisement d'un cheval blanc. Observez comment il va transformer ce cheval blanc en quelques minutes. Non seulement il devient un cheval blanc, mais encore une bête avec beaucoup de têtes et de cornes. Vous voyez? Maintenant, le cheval blanc, il est un séducteur. Et c'est la raison pour laquelle, pendant tout ce temps, les gens ne l'ont pas reconnu. Ils y pensaient, mais il est ici maintenant, et cela va être révélé dans les Écritures. Remarquez, dans le nicolaïsme, voyez, l'Antichrist est finalement, il est incarné dans un homme, puis il est couronné. Quand il commence dans l'Église comme un esprit de nicolaïsme, il est un esprit, vous ne pouvez pas couronner un esprit. Mais 300 ans plus tard, il devient un pape. Et alors ils le couronnèrent. Pour commencer, il n'avait pas de couronne, mais il en eut une plus tard. Voyez, quand cet esprit-là s'est incarné, voyez, il est devenu un homme. La doctrine nicolaïte est devenue un homme. Alors, ils ont pu le couronner. Ils ne pouvaient pas le faire auparavant, car ce n'était qu'une doctrine. Gloire. Remarquez, et lorsque ce Saint-Esprit que nous avons devient incarné en nous, et que celui qui est au milieu de nous maintenant, sous la forme du Saint-Esprit, devient incarné en nous, dans la personne de Jésus-Christ, nous le couronnerons roi des rois. Alléluia! C'est juste. Maintenant, souvenez-vous, à peu près au moment où Christ est venu sur le trône, l'Antéchrist vient lui aussi sur le trône, c'était Judas. Et à peu près en même temps que Christ quitta la terre, Judas quitta la terre. Presque au même moment où le Saint-Esprit est revenu, l'Antéchrist aussi est revenu. Vous savez que Jean a dit, « Petits enfants, je ne voudrais pas que vous ignoriez que l'Antéchrist est déjà venu et qu'il agit déjà dans les enfants de la désobéissance. » Ensuite, l'Antéchrist commença à former là l'esprit nicolaïte pour en faire une organisation. Pas étonnant que j'ai détesté cette chose. Vous dites, voilà, ce n'était pas moi, c'était quelque chose en moi. C'était cette chose et elle est sortie. Vous voyez? Je tournais autour, mais je n'avais pas pu le voir jusqu'à maintenant. Voilà, donc, cet esprit nicolaïte que Dieu haïssait. Et maintenant, cet esprit s'est incarné et ils l'ont couronné. C'est exactement ce point-là que la Bible dit qu'il le ferait. C'est parfait. Oh là là! Incarné, il est devenu un homme et ils l'ont couronné. Lisez aussi de quelle manière Daniel a dit qu'il s'emparerait des royaumes de l'Église. Nous avons le temps de le faire. Prenons Daniel. Le livre de Daniel, nous allons lire. Il y a peut-être encore 15-20 minutes. Très bien. Daniel, 11e chapitre, prenons verset 21, voici Daniel. Daniel qui parle maintenant, comment ce gars va prendre le pouvoir. Et il serait une personne vile à qui on ne donnera pas l'honneur du royaume. Maintenant regardez. Mais il entrera paisiblement, subtilement, et il prendra possession du royaume par des flatteries. Mais exactement, mais Daniel a dit que c'était ce que cet Antichrist ferait. Il va s'accommoder à la position des gens. Il s'adaptera à la nourriture que les églises auront en ce jour. Car dans cet âge de l'Église, ils ne veulent pas la parole, Christ, mais ils veulent l'Église. Ils ne vous demanderont pas si vous êtes chrétien, mais à quelle Église appartenez-vous? Quelle Église? Ils ne veulent pas Christ, la parole. Allez leur parler de la parole et leur dire comment se mettre en ordre. Ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent quelque chose qui leur permette de vivre n'importe où, n'importe comment, tout en appartenant à l'Église, et maintenir leur témoignage. Et là, l'Antéchrist leur donne exactement le menu qui leur plaît. Et remarquez qu'il fut finalement appelé « elle » dans la Bible. Et elle était une prostituée. Elle avait des filles. Ça correspond bien à l'esprit d'aujourd'hui, ce que les gens veulent. Dieu l'a promis. Quand la parole est refusée, alors ils sont tournés vers leur propre désir. Je voudrais que vous y preniez garde une minute. Nous avons lu cela il n'y a pas longtemps dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11. Ils se détourneraient de la vérité. Ils recevraient une puissance d'égarement et qu'ils croiraient un mensonge et qu'ils en seraient condamnés. C'est ce que dit le Saint-Esprit. Or, n'est-ce pas le désir de l'Église aujourd'hui? Essayez de dire aux gens qu'ils doivent faire ceci ou cela. Aussitôt, ils feront savoir qu'ils sont des méthodistes, des presbytériens ou autre chose, et qu'ils ne sont pas obligés de marcher avec vous, voyez? Assurément, c'est ce qu'ils veulent. Et Dieu a dit, si c'est ça qu'ils veulent, eh bien, ils l'auront. Je leur ferai réellement croire que c'est la vérité, parce que je leur donnerai une pensée réprouvée à l'égard de la vérité. Regardez encore ce que dit la Bible au sujet de Jannès et Jambrès, qui s'opposèrent à Moïse. De même, ces gars-là, dans les derniers jours, avec leur esprit réprouvé à l'égard de la vérité, détourneront la grâce de Dieu en luxure, reniant le Seigneur Dieu. Maintenant, vous voyez où nous en sommes. Et pas seulement les catholiques, mais aussi les protestants. Tous. C'est le monde organisé tout entier. Voilà le cavalier montant le cheval blanc, sous les apparences d'une Église blanche et juste. Voyez? Mais il faut qu'un antichrist ait la même apparence jusqu'au point de venir sur un cheval comme Christ qui vient sur un cheval. Tout ce qui est antichrist est si proche que cela pourrait séduire les élus même si c'était possible. Le voilà, c'est lui l'antichrist. Il a commencé à chevaucher au premier âge de l'Église et il continue dans tous les âges. Observez-le. Vous direz, même déjà du temps des apôtres, en ce temps-là, il s'appelait le nicolaïsme. Puis à l'âge suivant, il devint une doctrine dans l'Église. Premièrement, il fut seulement quelque chose dont on parlait. Et puis, il est devenu une doctrine. Les gens chics, célèbres, érudits, raffinés, ils ne voulaient pas de tout cela dans l'Église. Non, ils ne voulaient pas de toutes ces balivernes au sujet du Saint-Esprit. Ça devait être une église. Nous irons tous au concile de Nicée, à Rome. Alors, lorsqu'ils y sont allés, ils ont pris l'église, ils ont pris le paganisme, Rome et le paganisme, la Rome païenne, et un peu de superstition, et ils prirent Astarté, la reine du ciel, et ils en firent Marie, la mère, des morts, ils firent des intercesseurs, et ainsi de suite. Ils prirent cette hostie ronde que l'on distribue toujours depuis lors, et ils l'appelèrent le corps de Christ, parce qu'elle représentait la mère du ciel. Quand un catholique passe devant cela, il fait le signe de la croix parce que cette lumière qui brûle dans le petit tabernacle là est censée représenter l'hostie qui, par le pouvoir du prêtre, est transformée en Dieu. Pourtant, ce n'est rien d'autre que du paganisme pur et simple. Je ne peux pas comprendre ça tout simplement. Pourtant, oui, je le comprends par la grâce de Dieu. Remarquez. Oh là là! Comment peuvent-ils faire cela? Oui. Ils reçoivent ce qu'ils désirent, c'est vrai. Vous n'êtes pas obligé de faire ces choses, certainement pas. Si vous ne voulez pas les faire, vous n'y êtes pas forcé. Si vous ne voulez pas vous conformer à la manière de vivre et d'adorer Dieu, vous n'êtes pas obligé de le faire. Dieu ne force personne. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si votre nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, vous serez si heureux de le faire que vous ne pourrez pas attendre une minute de plus. Regardez, vous dites, je vous prie de croire que je suis aussi religieux. C'est possible. Qui peut dire que ces prêtres n'étaient pas religieux du temps de Seigneur Jésus? Qui peut affirmer qu'Israël n'était pas religieux dans le désert? Vous direz, Dieu m'a béni tant de fois. Il les avait bénis aussi. Ils n'avaient même pas besoin de travailler pour vivre. C'est du ciel que venait la nourriture qu'il leur donnait. Et pourtant, Jésus a dit, ils sont tous perdus, ils sont tous morts, ils ont tous péri. Il disait, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Et Jésus leur a dit, ils sont tous morts, séparés éternellement. Il a dit, « Mais moi, je suis le pain de vie descendu du ciel d'auprès de Dieu. Si un homme mange de ce pain, il ne mourra jamais. » Voyez, il était l'arbre de vie. Remarquez. Simplement comment, lorsque Jésus est venu, ces prêtres se présentèrent devant lui avec toute leur religion. Personne n'aurait pu prétendre qu'ils n'étaient pas des gens de bien. Ils marchaient dans la ligne de la loi. Tout ce que l'Église disait, ils le faisaient. S'ils ne le faisaient pas, ils étaient lapidés. Et lorsqu'ils vinrent, savez-vous comment Jésus, Jean-Baptiste les appelait, race de vipères. Il leur dit, ne pensez pas parce que vous appartenez à cette organisation que vous ayez quoi que ce soit à faire avec Dieu. Vous avez pour père le diable. Chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, qu'est-il arrivé? Vous l'avez lapidé, jeté dans la tombe. Et maintenant, vous blanchissez son tombeau. L'Église catholique n'a-t-elle pas fait la même chose? Regardez Jeanne d'Arc, Saint Patrick et tous les autres. Ce sont eux qu'ils ont fait mourir. Et depuis quelques centaines d'années plus tard, ils ont déterré les os de ceux qui avaient condamné Jeanne d'Arc comme sorcière. Vous avez pour père le diable. Ce sont ses œuvres que vous faites. Ça ira dans le monde entier. C'est exactement ce que Jésus a dit. Vous pensez que c'est très bien, ça a l'air bien, ce cheval blanc. Mais regardez ce que ça vous donne. C'est exactement cela qu'il monte. Maintenant, Jésus a dit que, puisqu'il l'avait voulu, il leur donnerait de grandes illusions. Souvenez-vous que cette prostituée d'Apocalypse 17, elle est le mystère, Babylone, la mère des prostituées. Et Jean s'étonnait à son sujet en écrivant, « Attendez jusqu'à ce que nous y soyons et voyez comment Jean observe ce cheval. » Voyez ce qui est arrivé. Il fut rempli d'un grand étonnement à son sujet. Mais le mystère était qu'elle buvait le sang des martyrs de Christ. C'était une église magnifique, parée de pourpre et d'or, mais elle tenait dans sa main une coupe pleine des souillures de sa fornication. Qu'est-ce que la fornication? C'est une vie inique, pas juste. C'est sa doctrine qu'elle répandait. Elle prend la parole de Dieu et la rend sans effet par ses « Je vous salue Marie » et toutes ces choses qu'elle répand. Et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. Et vous direz, « Eh bien, c'est l'église catholique, mais elle est mère de prostituées qui sont la même chose qu'elle était. » Vous y voilà. Qu'est-il arrivé? Quand le réformateur est mort et que son message s'est éteint, vous en avez fait une organisation avec à la tête une bande de rikis et vous avez recommencé la même chose selon votre désir. Vous n'avez pas voulu demeurer avec la parole. Au lieu d'avancer exactement avec la parole, ils en sont restés là 10 ans. C'est ça qu'il nous faut. Ne faites pas cela. Ce qui est juste, c'est que lui est là en haut. Remarquez, nous voulons encore considérer quelque chose avant de terminer. Il est le prince qui voulait détruire le peuple de Daniel. Croyez-vous cela? Je vais vous montrer cela si vous patientez encore quelques instants, mais j'aimerais rendre ces choses bien claires, votre entendement positif, car c'est le Saint-Esprit qui vient de me donner cela, aussi sûr que je suis devant vous. Maintenant, regardez, allons dans Daniel. Je veux lire quelque chose. Daniel 9. Daniel 9. Et je veux lire versets 26 et 27, Daniel 9. Regardez ce qu'il va faire. S'il n'est pas celui qui doit détruire le peuple de Daniel. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Vous voyez, voilà les 70 semaines. Non pas pour lui-même, mais le peuple et le prince, la hiérarchie là, qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et la fin en sera avec débordement, et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation déterminé. Après que Christ soit retranché de la terre, après les 3 ans et demi, son ministère, qu'est-ce qui a détruit? Qui a détruit le temple? Rome, certainement. Constantin. Titus, le général romain. Le prince l'a détruit. Maintenant, remarquez, observez ces personnages qui s'avancent. Quand Jésus est né, le dragon rouge dans le ciel est venu près de la femme pour dévorer son enfant aussitôt qu'il serait né. Est-ce vrai? Qui était celui qui essayait de dévorer l'enfant quand il est né? Rome, voilà le dragon rouge. Voilà votre prince. Voilà cette bête. Ils sont là, chacun d'eux. Comme d'habitude, pour dévorer l'enfant, mais Dieu l'a enlevé dans les cieux où il s'est assis sur son trône. C'est là que Christ, maintenant jusqu'au temps marqué. Regardez maintenant ce qu'il va faire. Je crois qu'ici même, j'ai parlé à quelqu'un de cela. Il se peut bien que ce soit aujourd'hui à un frère Robertson ou à quelqu'un d'autre. Je sais la même chose. Je crois que j'ai prêché là-dessus il y a peu de temps. Ce qui arrivera aux États-Unis concernant la situation monétaire. Nous payons des intérêts sur des impôts qui seront encaissés dans 40 ans. Voilà où nous en sommes. Avez-vous jamais écouté la station CARE ou l'émission Lifeline de Washington? Eh bien, nous sommes en pleine débâcle. Voilà tout. Qu'est-ce qui se passe? Tout l'or est bloqué et ce sont les Juifs qui détiennent les titres de propriété. De l'argent, en attendant que ce soit Rome. Maintenant, soyez attentifs. Nous savons tous qui sont les propriétaires des grands magasins. Mais c'est Rome qui est la plus grande partie de la richesse du monde. Le reste est entre les mains des Juifs. Ainsi, écoutez comment le Saint-Esprit a illustré tout cela pour moi. Et il confirmera une alliance avec beaucoup pour une semaine. Et observez, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande à cause de la protection des abominations. Il y aura un désolateur jusqu'à ce que la consomption qui est décrétée soit versée sur la désolée. Voyez comme il est rusé. Il est ici. Regardez, le voici. Maintenant, nous avons saisi cette image et nous savons qu'il est Rome. Nous savons qu'il est le cavalier au cheval blanc. Nous savons qu'il s'est avancé en tant que doctrine. Et puis, qu'advint-il de la Rome païenne? Elle fut convertie en Rome papale et fut couronnée. Au temps de la fin, non pas dans les premiers jours où Christ prêchait, mais au temps de la fin, pendant la dernière partie de la semaine que nous venons juste d'examiner, les 70 semaines de Daniel, Christ a prophétisé durant 3 ans et demi, et 3 ans et demi sont encore déterminés, est-ce vrai? Et à ce moment-là, ce prince doit faire une alliance avec le peuple de Daniel, qui est le peuple juif. Et cela se passe lorsque l'épouse est enlevée, elle ne le verra pas. Notez, dans la dernière moitié de la semaine de Daniel, ce prince fait une alliance avec Rome, il fait une alliance avec eux, sans aucun doute, à cause de leur richesse, car les catholiques et les juifs détiennent les richesses du monde. Je suis allé au Vatican, j'ai vu la triple couronne. Je devais avoir une entrevue avec le pape. Le baron von Blomberg me l'avait obtenu pour un mercredi après-midi, à 3 heures. Et lorsque j'avais été conduit auprès d'un roi, il m'avait alors coupé les revers de mon pantalon parfaitement. Il m'avait dit ne jamais lui tourner le dos en le quittant. Tout cela est très bien. J'ai dit, mais alors, que dois-je faire devant ce personnage? Ils m'ont répondu, entrez simplement et fléchissez le genou devant lui et baisez-lui le doigt. J'ai dit, c'est absolument exclu. J'appellerai n'importe qui un frère s'il veut être un frère. Je l'appellerai révérend s'il veut voir ce titre. Mais adorer un homme, non. Cela n'appartient qu'à Jésus-Christ. Aucun homme ne peut prendre cette position. Non, certainement pas. Ainsi, ne l'ai-je pas fait, mais j'ai pu traverser le Vatican d'un bout à l'autre. Vous ne pourriez l'acheter pour 100 milliards de milliards de dollars. Pensez que la Bible dit, la richesse du monde fut trouvée en elle. Pensez à tous ces lieux grandioses. Pourquoi le communisme s'est-il élevé en Russie? Ça me rend simplement malade d'entendre tant de prédicateurs crier contre le communisme. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est vrai. Le communisme n'est rien en lui-même. C'est un outil dans la main de Dieu pour tirer vengeance du sang des saints répandus sur la terre. C'est vrai. Ainsi, après l'enlèvement de l'Église, Rome et les Juifs concluront une alliance l'un avec l'autre. C'est la Bible qui dit qu'elle ferait alliance avec le peuple saint. Et pour quelle raison feront-ils cela? Notre pays court à la faillite et le reste du monde qui base son économie sur les talons or également. Vous le savez, si nous vivons sur les impôts qui rentreront dans les 40 années à venir, où allons-nous? Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de changer la valeur monétaire et de payer les obligations. Et nous ne pouvons pas faire cela. Ces titres appartiennent à Wall Street, qui est contrôlé par les Juifs. Le reste est au Vatican. Mais à part cela, les Juifs ont tout à Wall Street avec le commerce mondial. Nous ne pouvons pas faire rentrer cet argent. Et même si c'était possible, croyez-vous que ces manias du whisky et du tabac nous laisseraient faire? Leurs revenus se chiffrent par milliards de dollars, mais ils ne les déclarent pas et achètent avec l'argent de leurs impôts des peintures vulgaires et toutes des choses comme ça. Ils achètent des milliers d'hectares en Arizona, ils creusent des grands puits de pétrole qui leur coûtent des millions. Mais vous, omettez une fois de payer vos impôts et vous les verrez aussitôt vous jeter en prison. Et pendant ce temps-là, eux, Ils continuent leur défrichage et leur recherche pétrolière. Et que font-ils? Ils font de grands projets de construction de logements sur leur terrain et avec l'argent que cela leur rapporte, ils construisent des maisons. Ils doivent investir cet argent et les vendent pour des millions de dollars. Pensez-vous que ces gens-là vont faire des compromis pour changer la monnaie? Un homme, ce gars-là, il a fait. Quel est son nom? Castro? C'est là, d'ailleurs la seule chose intelligente qu'il ait jamais faite à cette nation, à cette époque. Il a rassemblé toutes les reconnaissances de dette de son pays, il les a détruits. Vous savez bien que nous ne pourrions pas faire cela. Ces gens ne nous laisseraient pas faire. Les riches marchands de la terre détiennent tous les titres et il n'y a qu'une seule chose à faire. L'Église catholique peut les racheter. Elle est la seule qui ait l'argent. Elle peut le faire. Et elle le fera. Et en faisant cela pour les avoir, elle va faire un compromis avec les Juifs et fera une alliance avec eux. Et remarquez que je prends ceci dans les Écritures. Et maintenant, quand elle le fera, cette alliance, nous remarquons dans Daniel 8, il fera que la ruse prospère et il fera de la fraude dans l'industrie et il fait une alliance avec les Juifs et au milieu de ces 3 ans et demi, il brise son alliance, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'il a tout bien lié et qu'il tient bien en main l'argent des Juifs, et quand il fait cela, oh là là, oh là là, il est appelé l'Antichrist jusqu'à la fin de l'âge de l'Église, car lui et ses enfants sont contre Christ et la parole. Cet homme appelé l'Antichrist, maintenant il va posséder tout l'argent. Et c'est là qu'il va entrer, je pense. Mais j'y reviendrai dans un instant. Il est appelé l'Antichrist. Et il sera appelé l'Antichrist aux yeux de Dieu jusqu'au temps de la fin. Ensuite, il sera appelé quelque chose d'autre. Maintenant, quand il aura le contrôle de tout l'argent, alors il brisera son alliance avec les Juifs, selon ce que dit Daniel au milieu de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Alors, frère, que fera-t-il? Comme il possédera tout le commerce et le trafic du monde, il fera un pacte avec le monde. Il le fera parce qu'il aura en main toute la fortune du monde entier. Et pendant ce temps-là, ces deux prophètes entreront sur la scène et ils appelleront les 144 000. Alors qu'arrivera-t-il? À ce moment-là, la marque de la bête d'Apocalypse 13 sera posée parce qu'il détient tout le commerce, tout ce qui est dans le monde. Que se passera-t-il alors? La marque de la bête entrera en sorte que personne ne pourra acheter ni vendre à moins d'avoir la marque de la bête. Oh, Dieu soit loué, l'Église se réjouira dans la gloire pendant ces 3 ans et demi. Nous n'aurons pas à passer par cela. Maintenant, marquez, au temps de la fin, à la fin des âges de l'Église, lui et ses enfants sont appelés l'Antichrist parce que tout ce qui est contre Christ est antichrist. Et tout ce qui est contre la parole est contre Christ parce que Christ est la parole. Il est antichrist. Alors dans Apocalypse 12, 7 à 9, lorsque Satan est chassé, l'accusateur, voilà ce que ça signifie, je n'ai pas le temps de le lire maintenant, mais dans Apocalypse 12, 7 à 9, Satan, l'esprit, le diable, qui est là-haut maintenant, l'accusateur de nos frères. Très bien. L'Église est enlevée et Satan est précipité. Quand l'Église monte, Satan descend. Alors, Satan s'incarne dans l'Antichrist et est appelé la bête. Puis dans Apocalypse 13, il appose la marque. Voyez? Maintenant, si la chrétienté est gardée sur la terre dans sa pureté, c'est parce que quelqu'un retient. Souvenez-vous ce que nous avons vu dans 2 Thessaloniciens. Il s'assied dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il pardonne les péchés sur la terre, cela va continuer, et l'iniquité abondera parce qu'il ne sera pas reconnu. Avant que soit venu le moment, il doit être révélé. Alors, l'Église sera enlevée. Lorsqu'elle est enlevée, de même, l'Antichrist, qu'il était jusqu'à maintenant, maintenant, oh là là, il se transforme. Maintenant, il devient la bête. Oh là là. J'aimerais faire en sorte que les gens puissent voir cela. Maintenant, souvenez-vous que l'Antichrist et la bête sont un seul et même esprit. C'est cela, la Trinité. Oui, monsieur. Il y a trois étapes du même pouvoir du diable. Souvenez-vous, Nicolaïsme. Oui. Il avait dû être incarné avant de pouvoir être couronné. Oui. Maintenant, faites bien attention. Il y a trois étapes. Première étape, il est appelé Antichrist. Deuxième étape, il est appelé le faux prophète. Troisième étape, il est appelé la bête. Remarquez, le nicolaïsme, l'enseignement antichrist qui a commencé d'agir contre la parole de Dieu au temps de Paul, c'est l'antichrist. Alors, il est appelé à nouveau le faux prophète. Quand l'enseignement est devenu un homme, il est devenu un prophète enseignant la hiérarchie de l'Église catholique. Le pape était le prophète de la fausse parole, ce qui fait de lui un faux prophète. La troisième étape est la bête. C'est un homme qui est couronné dans les derniers jours, ayant reçu tout le pouvoir que la Rome païenne eût jamais eu, parce que la bête aux sept têtes, le dragon, a été chassé du ciel et s'est incarné dans le faux prophète. Et ici, le dragon a sept couronnes et il est chassé et précipité sur la terre et la mer. Très bien. Que disions-nous donc? Qui est ce cavalier? Ce cavalier au cheval? C'est le surhomme, Superman de Satan. L'autre soir, j'y suis allé avec deux frères qui sont ici présents. Frère Norman, là-bas, et frère Fred. Nous sommes allés entendre un homme enseigner sur l'Antichrist. Un prédicateur bien connu, un des meilleurs que possèdent les assemblées de Dieu. Et voici l'interprétation qu'il a donnée de l'Antichrist. Ils vont prélever une certaine sorte de vitamine d'un homme et transformer cette vie d'homme en quelque chose de gigantesque, capable de franchir tout un pâté de maison d'une seule enjambée. Pouvez-vous imaginer un homme rempli de Saint-Esprit, ou qu'il prétend être, sous l'emprise d'une telle illusion? Alors que la Bible dit qu'il est l'Antichrist. Ce n'est pas... C'est un homme! Remarquez, ce cavalier n'est rien d'autre que le Superman, le surhomme de Satan, le diable incarné. C'est un génie instruit. Maintenant, j'espère que vos oreilles sont grandes ouvertes. Il n'y a pas longtemps, à la télévision, ils ont voulu voir si un de ses enfants n'était pas plus intelligent que les autres afin de poser sa candidature à la présidence. Il avait beaucoup de sagesse, comme Satan, et il essayait de la vendre. Il l'a vendue à Ève, et il nous l'a vendue. Nous voulions un surhomme, nous l'avons. Très bien. Le monde entier veut un surhomme, et ils l'auront. Attendez simplement que l'Église soit enlevée et que Satan soit précipité. Alors il va s'incarner, c'est vrai. Ils veulent quelqu'un qui puisse réellement faire l'affaire, ils l'auront. Instruit. Voilà le surhomme de Satan, avec son instruction, sa sagesse, sa théologie d'Église, venant de sa propre parole, de sa propre fabrication. Et il chevauche ce cheval blanc dénominationnel pour séduire les gens. Et il va conquérir toutes les religions du monde parce qu'elles entreront toutes dans la Fédération mondiale des Églises. Ils ont déjà leur bâtiment, leur construction, tout est arrangé. Ils n'ont rien oublié. Toutes les dénominations entreront dans la Fédération des Églises. Et qui est derrière tout cela? Rome. Et le pape proclame maintenant, « Nous sommes tous un, rassemblons-nous, marchons ensemble. » Et tous ces hommes, comme d'ailleurs certains d'entre vous, gens du plein évangile, devront renier l'enseignement évangélique qu'ils ont reçu pour faire ce pas-là. Ils sont devenus si aveugles à l'égard de ces choses dénominationnelles. Ils ont rejeté la vérité. La vérité a été placée devant eux, mais ils s'en sont éloignés et l'ont abandonné. Et maintenant, ils ont été livrés à une énergie d'erreur puissante afin de croire au mensonge et d'être damnés avec lui. Et voilà exactement ce qui arrivera. Et l'Antichrist s'emparera de tous. Et la Bible dit qu'il les séduirait tous sur la surface de la terre. Tous ceux dont les noms n'ont pas été écrits sous ces sceaux depuis avant la fondation du monde. Or, si la Bible dit qu'il le fera, il le fera. Ils disent, bien, j'appartiens. Voilà, c'est exactement cela. C'est la même institution prostituée. C'est le même système qui a commencé au commencement, qui est antichrist tout le long. Je vais en entendre à ce sujet, si c'est la vérité. Je m'y attends bien. Maintenant, remarquez, il va conquérir et il tient déjà presque tout dans ses griffes. Il y a toujours l'antichrist jusqu'à ce qu'il devienne la bête. On va vous parler de châtiment cruel. Attendez seulement, vous verrez tout ce que devront supporter ceux qui auront été laissés sur la terre. Il y aura des pleurs et des gémissements et des grincements de dents, car le dragon, Rome, lance de l'eau de sa bouche pour faire la guerre au reste de la semence de la femme qui est laissée sur la terre après que l'épouse ait été choisie et enlevée. Et le dragon fait la guerre au reste. Ces derniers n'avaient pas voulu entrer et maintenant ils sont pourchassés. La véritable Église passerait par là, et si c'était possible. Mais vous voyez, ils sont sous le sang par la grâce de Christ et ce n'est pas possible. Il n'y a pas de période de tribulation pour eux. La prochaine chose pour l'Église, c'est l'enlèvement. Amen, amen. Oh, combien j'aime cela. Laissez-moi vous dire encore ceci. Nous parlons de la conquête qu'il est en train de faire. Il va vraiment conquérir. Il a déjà du reste fait. L'affaire s'est déjà vendue. C'est tout. Ils mettront tout l'argent dans le sac. C'est l'esprit de lucre. Exactement. Ils aiment l'argent plus que Dieu. La seule chose à laquelle ils pensent maintenant, c'est la quantité d'argent qu'ils possèdent. Vous savez qu'il a souvent été dit, donnez de l'argent à l'Église et elle révolutionnera le monde. Donnez de l'argent à l'Église et elle enverra des évangélistes dans le monde entier. Et que fera-t-elle? Elle conquérera le monde pour Christ. Laissez-moi vous dire quelque chose, pauvre ami aveugle. Le monde n'est pas gagné par de l'argent, mais par le sang de Jésus-Christ. Donnez à Dieu des hommes vaillants qui s'appuieront sur cette parole jusqu'à donner leur vie pour elle. Voilà ce qui conquérera. Il n'y a qu'un seul groupe qui pourrait être conquis, c'est celui dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Eux seuls écouteront. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Il ne peut que les envoyer plus avant dans les traditions dénominationnelles. Oui, ce sera un génie de l'instruction. Il sera intelligent. Et oh là là, là 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 là. Tous ses enfants autour de lui seront intelligents, revêtus de tous les titres, diplômes imaginables, docteurs en philosophie, en théologie, tout ce que vous voulez. Ce sont l'ordre de Satan. Toutes les ruses astucieuses qui sont opposées à la Bible sont de Satan. C'est exactement ainsi qu'il a prié Ève. Ève avait dit, c'est écrit, Dieu nous a dit de ne pas le faire. Il a répondu, attends, sûrement que Dieu ne fera pas cela. Je vais t'ouvrir les yeux et te donner une certaine connaissance. Elle l'a reçu. Nous aussi, nous l'avons voulu. Cette nation-là. Notez, Satan conquérera le monde religieux tout entier. Il fera une alliance avec le peuple de Daniel. Maintenant, le monde religieux est divisé entre les nations et le peuple de Daniel, les Juifs de la dernière semaine. Nous avons dessiné cela au tableau noir, nous le voyons parfaitement. Voilà, nous en sommes. Merci Seigneur, ce système des organisations vient du diable, disons-le clairement. Exactement, c'est le diable qui en est la racine, non point les personnes qui s'y trouvent. Beaucoup d'entre elles, beaucoup de gens là sont les enfants de Dieu, mais vous savez quoi? Lorsque nous en arrivons au moment où les trompettes sonnent, et le temps suivant arrive au son des trompettes, souvenez-vous du troisième ange lorsqu'il vient et qu'il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple !» Quand cet ange fait retentir sa voix à ce moment même où le message arrive par la dernière trompette, le message du dernier ange, le dernier sceau s'ouvre, tout se passe en même temps, tout est scellé et passe dans l'éternité. Maintenant, regardez. Mais dans le même temps où ce personnage est en train de conquérir, Dieu, lui aussi, va faire quelque chose. Ne donnons pas tout le crédit à Satan. Ne parlons pas uniquement de lui. Oui. Pendant que cette chose glorieuse se déroule d'un côté, ce grand système se rassemble dans ses organisations et l'union se fait entre eux afin de résister au communisme, ne sachant pas que c'est Dieu qui a suscité le communisme pour les conquérir. Certainement. Qu'est-ce qui a fait naître le communisme en Russie? C'est à cause de l'impureté de l'Église romaine et des autres. Ils ont pris tout l'argent qu'il y avait en Russie et ont affamé le peuple en ne lui donnant rien. au lieu de le laisser vivre comme le reste du monde. Il n'y a pas longtemps, j'étais allé à Mexico et j'ai vu ces pauvres petits enfants. Aucun pays catholique ne se suffit à lui-même, pas un seul. Montrez-moi à quoi ils en sont. Aucun pays dominé par le catholicisme ne se suffit à lui-même. En France, en Italie, au Mexique, où que vous alliez, ils ne peuvent subvenir à leurs besoins. Pourquoi? Parce que l'Église leur a pris tout ce qu'ils ont. C'est la raison pour laquelle la Russie l'a chassé. Voyez ce qui se passe. Je l'ai vu moi-même. J'étais là-bas, et en entendant sonner les cloches, on aurait pu croire que l'âge d'or était arrivé. Mais voici que j'aperçois une pauvre femme qui descendait la rue, traînant les pieds, le père portant leur bébé de deux ou trois enfants qui pleuraient autour d'eux, et elle faisait pénitence pour une morte quelconque, là, pensant qu'elle irait au ciel de cette manière. Oh, quelle chose pitoyable! Leur budget est tellement déséquilibré. L'Église leur prend tout ce qu'ils ont. Et voici le jeune Pancho. Peut-être que, pourrait dire Franck, il est maçon, il gagne 20 pesos par semaine. Mais une paire de souliers coûte déjà 20 pesos. C'est comme cela qu'ils vivent. Et pourtant, il est maçon, et il gagne 20 pesos par semaine. C'est une façon de parler, car je ne sais pas ce qu'ils gagnent, mais je dis un chiffre pour montrer comment cela montre le déséquilibre de leur budget. Remarquez, s'ils gagnent 20 pesos par semaine, voici que Chico, ce qui signifie le petit, lui, il travaille là pour 5 pesos par semaine, et il a 10 gosses à nourrir. Mais quelqu'un vient frapper à sa porte, et il prend environ 4 de ces pesos pour payer un cierge qui sera brûlé pour ses péchés sur un autel d'or d'un million de dollars. Ils en sont là. Voilà comment leur budget s'équilibre. C'est ainsi que cela se passe dans ces pays. La chose prend tout. L'Église prend tout. L'Église tient tout dans ses mains. Tout est là. Elle, ayant l'argent des Juifs et l'Alliance, la Bible dit qu'elle prendrait le tout. Et ensuite, deviendrait une bête, brisant son alliance, ravissant, déchirant ainsi le reste de la semence de la femme et faisant jaillir l'eau de sa bouche. Elle ferait la guerre et il y aurait des pleurs et des grincements de dents. Pendant ce temps, l'épouse se marie dans la gloire. Ne le manquez pas, les amis. Que Dieu me vienne en aide. Je désire y être. Je ne me soucie pas de ce que cela coûtera. Je désire être là. Maintenant, remarquez, dans le même temps où cela se produit, ou plutôt juste avant que cela n'arrive sur la terre, pendant que c'est dénominations se disputent et discutent au sujet de leurs différences de credo. Dieu a promis de nous envoyer un vrai prophète de la vraie parole avec un message destiné à nous ramener à la parole de Dieu originelle et à la foi des pères, afin de faire descendre la puissance du Saint-Esprit au milieu du peuple et la puissance qui élèvera l'Église au-dessus de ces choses et la faire entrer. Cette même parole sera confirmée par Jésus-Christ, qu'elle est même hier, aujourd'hui, éternellement. Voici, je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je serai avec vous encore un peu de temps. Ils ne me verront plus parce qu'ils vont s'organiser et se disperser. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous. Je serai même en vous jusqu'à la consommation du siècle. Quand l'indignation sera déversée après la consommation, vous y voilà. Oh mon Dieu, qui est ce cavalier sur le cheval blanc? Vous n'êtes pas aveugle. Vous voyez qui il est. Il est cet antichrist, cet esprit trompeur qui est parti maintenant et qui s'est introduit là. Voyez, Dieu ne fait que répéter ces choses. Il montre là le cavalier qui s'avance sur un cheval blanc, tenant son arc, mais n'ayant pas de flèche. Il n'a pas de puissance. C'est un bluffeur. Vous direz, la puissance de l'Église, où est-elle? Que fait-elle? Elle dit, nous sommes l'Église originelle. L'Église originelle chassait les démons, guérissait les malades et ressuscitait les morts. Elle avait des visions et tout le reste. Qu'en est-il maintenant? C'est un bluff, un arc sans flèche. C'est juste. Mais vous voyez, quand Christ viendra, une épée aiguë sortant de sa bouche, semblable à un éclair, elle sort et consume ses ennemis et jette le diable au loin. Elle retranche tout le reste et il vient, son vêtement trempé de sang et sur sa cuisse, il est écrit la parole de Dieu. Amen. Voici, il vient du ciel avec son armée, le cavalier montant le cheval blanc et sur la terre pendant tout ce temps. Il changera de la forme d'antichrist en celle de faux prophète. Vous voyez, il prit le départ en tant qu'antichrist, un esprit. Ensuite, il devient un faux prophète. Plus tard, quand le diable est précipité, c'est le diable qui s'incarne en lui. Il y a trois étapes. Premièrement, il est un démon, un esprit de démon. Puis il devient un faux prophète, un docteur enseignant une fausse doctrine. Ensuite, il devient le diable lui-même incarné. Voilà. En même temps que le diable tombe du ciel et s'incarne dans un homme, le Saint-Esprit s'élève et redescend incarné dans l'homme. Oh là là, quel temps! Demain soir, Dieu voulant, nous étudierons le deuxième sceau. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Vous le croyez? Je vais entendre parler de ces choses, vous savez cela. Je m'y attends. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est maintenant seulement pour la première fois de ma vie, je sais pourquoi cet esprit m'a toujours mis en garde contre cette organisation. Je suis reconnaissant au Seigneur Dieu de ce qu'il me montre ces choses. Je sais que c'est la vérité. Tout est révélé là, ici même. Voici donc ce cavalier qui chevauche à travers ces âges. Il arrive ici devant et se dévoile à nous aussi parfaitement qu'il est possible. C'est lui. Maintenant, nous ne serons plus séduits à ce sujet. Maintenant, vos yeux sont ouverts. Tenez-vous éloignés de ces bêtises. Aimez le Seigneur de tout votre cœur et demeurez fermement attachés à lui, certainement. Sortez de Babylone. Manifesté par les œuvres de l'Esprit. C'est la parole. Que la parole vienne sur ces mouchoirs, Seigneur. Guéris les malades, guéris chaque malade. Et tous ceux qui sont là, Seigneur. Il y a une autre guérison qui devrait s'accomplir maintenant même, Seigneur. Nous voulons que là, tout ça dans l'ordre, Seigneur. Ces choses doivent venir. Prends ces paroles qui ont été dites maintenant, Seigneur, et rends-les réelles. Qu'ils puissent le voir, Seigneur. Tu le sais, Père. Assez a été dit que le Saint-Esprit puisse le prendre et le révéler dans les cœurs. Ceux qui écrivent les Écritures, ceux qui font les enregistrements, qui entendent, qu'ils ne puissent pas y mettre leur propre interprétation, mais qu'ils puissent étudier la parole. Accorde le Père, dans le nom de Jésus. Je remets tout entre tes mains pour ta gloire. Amen. Si quelqu'un est ici et ne le connaît pas dans le pardon, faites-le maintenant. Et si c'était le brisement de ce sceau, et si c'était l'ange qui a presque fait exploser là, à New York, cette explosion aussi qui m'a presque enlevé, m'a secoué de la terre.
Brother Fred Soffman, who was
Alors que je prenais un gratteron de mes vêtements vers Tucson. Est-ce juste, frère Fred? Tenez-vous debout afin que les gens puissent vous voir. Nous sommes à la dernière heure. Adorons-le. Mes sœurs, j'ai parlé parfois contre vous, mais je l'ai fait dans l'amour divin. Je l'ai fait à cause de l'amour de Dieu. Demain sera peut-être trop tard. Il est peut-être quitté le trône d'intercession. Je ne sais pas, mais si c'est le cas, qu'en est-il? J'espère que ce n'est pas le cas. Mais il y a une possibilité que ce soit le cas. Purifie-nous, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, j'aime cette douce sensation, le Saint-Esprit. Comme il est merveilleux. Ne l'oubliez pas, les amis. Ne les oubliez pas. Rentrez à la maison avec cela. Que Dieu vous bénisse. Frère Neville, votre pasteur.